Au Poste est en libre accès et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur auposte.fr.
Eh bien, salut camarades Au Poste. Je dis camarades parce qu'on va parler du Front Populaire. Salut camarades du chat. Salut camarades qui nous écouteront plus tard ou qui nous écoutent donc en ce moment, mais plus tard. Sur le plateau, deux camarades convoqués. Serge Volikov, bonjour.
Bonjour.
Il faut que tu prennes ton micro.
Bonjour, camarade.
Jean Vigreux, camarade, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Et comme toujours, aux manettes, le roi des camarades, du son, des réglages, des fichiers à projeter, le camarade Nayan, que vous ne voyez pas, mais qui nous aide énormément, et à l'animation magistrale du chat, celle qui poste les références nécessaires, camarade Dame Eurial. Bonjour, Eurial. Donc, j'en profite pour vous dire que ici, c'est comme pour la lutte, faut du fric. Hein. Et c'est comme pour la lutte, on va pas avoir du fric des grands patrons. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de faire des dons. Voilà, c'est uniquement grâce à vous que l'on tient. Alors, nous sommes le 4 juin 2026. Sur les chaînes télévision, c'est le déferlement raciste et classiste hein, contre les jeunes qui ont fêté la victoire du PSG. Ça crie à la guerre civile. Ça permet de ne pas parler des villages rasés au Liban et en Cisjordanie, de Gaza qui se meurt, de l'hôpital et de l'école qui étouffent sous les coupes budgétaires, de la mesure dégueulasse d'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants non communautaire. Voilà. Alors aujourd'hui, il n'y a pas eu encore de nouvelles candidatures aux présidentielles, mais enfin, ça ne devrait pas tarder. Voilà. Il pleut. Résultat sur CNews, ça pérore. Vous voyez, il n'y a pas de réchauffement climatique. Bref, ce n'est pas la joie. Mais résultat, puisque j'aime bien un peu la joie, Serge, Jean, est-ce que vous pouvez me raconter le 4 juin 1936 ? Si on était le 4 juin 1936, comment est-ce qu'on résumerait l'information ?
Moi, je dirais que le 4 juin 1936, un mois après la victoire électorale, enfin, le gouvernement se constitue. Mais surtout, un événement inattendu est survenu qui n'était absolument pas prévu par quiconque. C'est un mouvement de grève inédit qui se déroule depuis à peu près une quinzaine de jours dans toute la France, qui a commencé d'abord à travers des grèves qui étaient des grèves pour demander la réintégration de militants qui, le 1er mai, avaient manifesté et qui était licencié pour cause de manifestation du 1er mai par des patrons qui n'avaient pas vu venir la colère sociale. Et donc, le 4 juin, on est dans un moment où le patronat est totalement effrayé par ce qui se passe. Et le nouveau gouvernement qui se constitue est en même temps lui-même composé de radicaux, de socialistes, de différentes obédiences socialistes, il est préoccupé de trouver une issue. Et la seule issue qui apparaisse concrète, c'est de faire que le mouvement social et les syndicats rencontrent un patronat qui, jusqu'alors, n'a jamais voulu discuter avec le monde syndical et le monde ouvrier au niveau national. Et donc, il va se passer un deuxième événement complètement inédit, c'est cette rencontre à l'hôtel Matignon entre syndicalistes et patrons.
Alors ça, c'est le 7 juin, dans la nuit du 7 au 8, mais le 4, puisque tu demandes le 4, c'est la rencontre entre Blum et le représentant du patronat, qui viennent le voir. Parce que le grand patronat, hein, c'est-à-dire la Confédération Générale de la Production Française, l'ancêtre du MEDEF, qui vient voir Blum en disant ben voilà, c'est pas possible, il y a des grèves partout, nos usines sont occupées, parce que la modalité d'action était nouvelle, le registre d'action était nouveau, on occupait les usines, donc là, on violait la propriété, hein, la sacro-sainte propriété, donc il faut trouver une solution. Donc c'est ça, le 4 juin. Et en même temps, au-delà du mouvement social, il y a un immense joie, un immense espoir de cette victoire électorale du 3 mai, parce que c'est une riposte antifasciste, c'est tous ces enjeux-là qui sont présents. Et puis, eh ben, une colère sociale, on pousse, hein, c'est-à-dire on veut bien le gouvernement, vas-y Léon, comme on a toujours chanté à l'époque, mais c'est essayer d'obtenir enfin quelque chose du côté du gouvernement et de la chose publique.
Oh, vous imaginez si on pouvait raconter ça le 4 juin 2027 ?
27.
Eh ben non, bon.
On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images.
Vous avez compris, chers camarades du chat, on va parler du Front Populaire. Et comme vous avez pu le voir, j'ai donc deux invités qui s'y connaissent. Hein, donc je vais vous présenter maintenant. Serge, tu as été professeur à l'Université de Bourgogne, hein, tu es spécialiste de l'histoire des gauches, du vin aussi, voilà. Tu es auteur de très nombreux livres sur la gauche française, sur l'internationale communiste et sur le Front Populaire, comme par exemple donc un livre en 1996 sur le Front Populaire, un nouveau en 2016, hein, Le Monde du Front Populaire, et vous avez écrit tous les deux avec Xavier Vignat, Le Pain, La paix et la liberté, expérience et territoire du Front Populaire aux éditions sociales en 2006. Jean, tu as été le collègue et le co-auteur à plusieurs reprises de Serge, que tu es aussi à l'Université de Bourgogne. Tu es aussi historien des gauches au XXe siècle et aussi spécialiste du Front Populaire, parce que tu as écrit « Le Front Populaire au PUF en collection Que sais-je ?»« Histoire du Front Populaire, l'échappée belle hein, » chez Talandier en 2016, qui a été réédité en 2022. « Découvrir le Front Populaire aux éditions sociales ». Donc vous vous connaissez bien, hein, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble, vous avez dirigé ou co-écrit ensemble beaucoup de livres, en plus du Front Populaire, Le Parti Rouge, une histoire du PCF, au Cherche Midi, Culture communiste au XXe siècle, à la dispute. D'ailleurs, je vous félicite, hein, puisque vous faites à peu près systématiquement des éditions indépendantes. Bravo, camarades. Et donc, aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous ai invité. Le voilà, on le voit bien. Je ne suis jamais très bonne avec la caméra. Front Populaire, perspective mondiale, chez nos amis de Libertalia. Donc, c'est un livre collectif. Il y a 37 contributeurs et contributrices dont on peut, alors évidemment, on va bien voir, voir la liste ici. Je ne peux pas tous les citer parce que c'est 37, c'est un peu long, mais vraiment. Des jeunes docteurs et docteureux, comme des profs chevronnés, voilà, c'est ça qui est vraiment super. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés, je le remontre. Ce qui est super, c'est que vraiment, enfin, on n'est pas obligé de le lire dans le fil. On peut prendre un chapitre, si par exemple on a envie de savoir, mais qu'est-ce qui se passe en Irlande pendant le Front Populaire ? Pof, chapitre Irlande. Si on veut savoir, allez, et le sport par exemple, pof, sur le sport. Donc pour ça, c'est vraiment bien parce que c'est presque une encyclopédie en fait, un petit peu du front populaire. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite. Hein. Mais je vais être honnête auprès des gens du chat et qui nous écoutent. Ça fait longtemps qu'on se connaît aussi. Hein, voilà. Alors Jean, toi tu le sais, mais je vous le dis, je t'ai rencontré dans un contexte assez particulier. C'était un moment où j'étais au parti de gauche. Hein, c'est pas secret que j'étais au parti de gauche, donc je ne trahis rien. Et à ce moment-là, je m'occupais de la défense avec l'avocate de Jean-Luc Mélenchon, qui était Raquel Garrido, de la défense de Jean-Luc Mélenchon, qui était attaqué par Marine Le Pen pour injure publique, parce qu'il l'avait traité de fasciste. Elle l'avait déjà attaqué pour diffamation. C'est un autre type de procès, les diffamations. Il faut prouver que ce qui est dit n'est pas vrai. Et elle avait perdu. Et donc là, elle recommençait pour injure publique. Et moi, mon boulot, c'était de trouver un historien qui pouvait montrer que fasciste est une injure publique classique en histoire, parce qu'il y a une jurisprudence. Quand quelque chose a déjà été utilisé et considéré comme inscrit dans l'histoire, eh bien, ça ne marche pas. Et là, je me suis dit, oh, je vais demander à Jean Vigreux. Et donc, tu t'es retrouvé à cause de moi, ou grâce à moi, je ne sais pas si c'était une bonne expérience, au prétoire, à expliquer que traiter quelqu'un de fasciste, oh, bah, ça s'était déjà fait.
Ouais, c'était un moment impressionnant parce que il y avait tous les enjeux que tu viens de dire du prétoire, donc on était un peu intimidés. Enfin, moi, je me souviens, j'avais été isolé au début, hein, mis dans une pièce vraiment à côté pour pas suivre ce qui se jouait. Donc, c'était une découverte. Voilà, c'est pas ma culture, j'ai pas l'habitude de suivre le prétoire, mais ça a été une belle expérience parce que tu m'as permis, et je t'en remercie vraiment, de développer quelque chose qui était pour moi fondamental, une dialectique entre fascisme et antifascisme. C'est-à-dire que traiter quelqu'un de fasciste, c'est parce que aussi on a une culture antifasciste, c'est parce qu'on a été, on est baigné là-dedans. Et là, on est au cœur vraiment de ce qui se joue au moment du Front Populaire. J'ai bien le moment, parce que c'est pas 36, c'est depuis les années 30, c'est l'arrivée des fascistes italiens au pouvoir, c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir dans l'onde de choc de l'arrivée d'Hitler, et comment les gauches, je dis bien les, hein, j'insiste sur le pluriel, vont lancer la riposte en redéfinissant leur antifascisme. Et donc, quand on traite quelqu'un de fasciste, voilà, c'était un peu sale par rapport à la culture politique. Mais ce qui était très intéressant aussi dans ce procès, c'était de voir qu'au-delà des questions qui étaient posées par les avocats de la défense de Jean-Luc Mélenchon, ou même de Marine Le Pen, hein, c'était Valrand Saint-Just qui était l'avocat de la défense, la question qui a été posée à la fin sur est-ce qu'on peut qualifier le Front National, puisque c'est encore le Front National, de fasciste, c'était intéressant de jouer sur le social et le national. C'était la ligne Philippot à l'époque, hein, faut pas le perdre de vue. Chose qui très vite est tombée à l'eau.
Et alors Serge, on se connaît aussi depuis très longtemps, et notamment, on a fait ensemble un projet qui était un projet avec les universités brésiliennes. C'était le moment où en France, il y avait un peu plus de fric et au Brésil, on était avant Bolsonaro, donc les universités avaient plus d'argent. Et c'était un projet sur la façon dont les mouvements sociaux utilisent les références historiques. Et il y avait des études, des enseignants du Brésil, des profs du Brésil qui étaient venus pour interroger en France des différents dirigeants de mouvements sociaux pour savoir comment ils utilisaient leur histoire. Et nous, on était allés au Brésil et on avait interrogé le mouvement des Sans-Terres, on avait interrogé des profs qui luttaient contre le mouvement de l'école dite sans parti, c'est-à-dire en fait une attaque, on ne disait pas wokiste à l'époque, mais c'était ça à ce moment-là. Et on arrivait à un moment, en fait, Dilma venait de se faire... je ne sais pas comment on dit, une pitchée, mais enfin, elle avait été destituée. Bolsonaro commençait à pointer, on était juste avant, et on est arrivé dans des facs complètement occupés, avec, je me souviens, des banderoles qui disaient « c'est pas grave, il vaut mieux perdre un semestre que de perdre finalement toutes nos études ». Est-ce que tu as des souvenirs
Non seulement j'ai des souvenirs, mais ça a été finalement très... Pour moi, et je crois collectivement, qu'on a senti à quel point, dans un pays comme le Brésil, la question du rapport entre l'histoire, la mémoire et les combats politiques du moment était imbriquée. N'oublions pas qu'à ce moment-là, se posait la question, et puis on était avec des collègues, avec Maude Chériot notamment, qui travaillaient sur la question de la dictature et des traces de la dictature dans la société brésilienne. Et ce qui était en cause, finalement, c'était le sens de la démocratisation du Brésil après la dictature et ce qu'avait été la démocratie quand la dictature l'a mis à bas avant, dans les années 60. Et donc, c'était la question de l'histoire sociale et de l'histoire de ce pays se jouait au présent. Et évidemment, quand la situation est différente dans la France contemporaine, mais on voit bien quand même que le rapport au passé et à l'histoire des mouvements sociaux, et en particulier du Front populaire, fait partie des débats de la France contemporaine aujourd'hui. Et que, en quelque sorte, les courants qui veulent imposer en France une radicalisation à droite, d'extrême droite, de type fasciste, cherchent à discréditer tout ce qui est le passé d'histoire du mouvement social. Et tous ceux qui, dans ce mouvement ou dans l'histoire de la gauche aujourd'hui, considèrent que c'est pas tellement important, on peut l'effacer ou on peut en garder que des aspects très très superficiels, sans s'en rendre compte, joue un jeu dangereux parce que l'amnésie dans ce domaine est toujours fille d'un retour, et plus que d'un retour, mais d'une montée de la droite et de l'extrême droite. En l'occurrence, pour la France, on est dans une ambiance qui, je ne sais pas si c'est celle de 1933 avant 1936, mais il y a quelque chose qui ressemble.
Alors, c'est assez parfait ce que tu as répondu pour m'assurer ma transition, puisque justement, l'histoire, le passé, la mémoire et du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, chers camarades, à savoir le Front populaire, a très clairement ressurgi en 2024. Alors, Nayan, si tu peux mettre les photos que je t'ai envoyées 10 juin 24 et jusqu'à 7 juillet 24, donc... On va voir défiler des photos. Quand on les verra, je les commenterai. Enfin, je les décrirai un peu pour celles et ceux qui vont décider de nous écouter en podcast. Donc, dissolution en 2024. Moi, dès le 9 juin, je suis Place de la République. Et le 9 juin, Place de la République, il n'y a pas encore grand-chose. C'est le 10 juin qu'il va y avoir des références. Alors là, par exemple, c'est une pancarte. Il y a écrit Front Populaire 1934, ce qui est intéressant par ailleurs. 2024, bon, c'est pour faire 4-4. Mais le Front Populaire, c'est plutôt... Enfin, ça commence, voilà. Donc, première image. Deuxième image, celle-là, bon, juste, elle est choupie, quoi. I love le Front Populaire. Mais bon, c'est dans les rues de Paris, Place de la République, le 10 juin. La suivante... Alors là, c'est parce qu'après, des artistes ont vraiment soutenu le mouvement. Et là, c'est dans forme de lutte. Et on voit une Marianne, finalement, bon, je dirais plus années 50, mais qui repeint la France en rouge avec écrit Front Populaire 2024. La suivante. Ah non, c'est pas ça. Ouais, ça, c'est autre chose. C'est pour la fin. On en parlera à la fin. Ah oui, alors ça, c'est un collage féministe. Front Populaire, congé payé. C'est marrant, c'est ça qui reste. On recommence. Et ça, c'est un collage féministe avec des lettres. Et rajouté en graffiti, 1936. Il y en a un qui doit s'appeler Bisous. Et il y en a un qui doit s'appeler Frites.
Mais il a disparu.
Ah, voilà.
Frites. Vive les frites et le Front Populaire. C'est marrant
ah oui,
quand même.
Oui,
hein
oui.
Ah, elle est pas mal, celle-là. Et le bisou. Alors, le bisou, c'est le soir de la... Ça arrive, vous allez voir. C'est le soir de la victoire, cette fois. C'est le 7 juillet. Donc, on est tous allés... bisous sur le Front Populaire. Voilà. Résultat, ma question, c'est qu'est-ce que ça fait quand on est historien du Front Populaire depuis des décennies, ce qui est votre cas, de voir surgir au soir du 10 juillet, alors certes, Ruffin l'avait dit la veille, mais là, ça s'inscrit dans la rue, c'est quand même... qu'est-ce que ça fait de voir surgir cette référence du Front Populaire?
Alors, effectivement, Ruffin l'avait dit, et je pense que c'était aussi dans l'état d'esprit. Il a eu le mot juste à ce moment-là, mais tout le monde le partageait, parce que cette dissolution hasardeuse, ce coup de poker, enfin, c'était...
Grenade, il a dit après
oui,
coup.
Après,
hein.
Après coup, il a dit grenade, mais vraiment, on avait l'impression que ça a été comme ça, hein, comme un pari, backup, et puis backup, je le fais, quoi. Enfin, on est vraiment dans quelque chose je trouve, d'irréfléchi. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, les élections européennes, le résultat du RN, puisqu'on était passé au RN, était très haut. Donc, il y avait quand même un danger du fait du mode de scrutin. N'oublions pas que dans notre pays, le mode de scrutin fait l'élection. Hein, une uninominale à deux tours, on élimine tous les autres et qui se retrouvent au second tour. Donc, on n'est pas dans une logique proportionnelle.
Comme en 36.
Ouais, exactement, comme en 36. Mais avec un autre rapport de force et avec une autre logique, puisque c'était celle où l'extrême droite était en tête dans le pays. Donc, ça fait réagir l'opinion publique et surtout les militants humanistes et plus que ça, bien sûr, de gauche et des gauches différentes, de se dire riposte. Riposte. Et oui, quelque part, c'était le retour. Alors, il ne faut pas toujours être dans la nostalgie. Ça, c'est clair. Il ne faut pas forcément être dans une vision fixiste du passé et regarder, en fin de compte, dans le rétroviseur. Il faut peut-être inventer aussi d'autres solutions. Mais le retour du terme, parce que je me souviens du colloque qu'on avait fait avec Serge, que tu citais tout à l'heure, édité aux éditions sociales. On avait une collègue qui nous avait dit oh, y a jamais eu, c'est fini les références au Front Populaire, on ne parle plus jamais de Front. Il y a eu Front de Gauche, etc. Et en gros, c'était fini. Ben là, voilà, ça revient. Donc, comme quoi, hein, faut qu'on fasse attention, des fois, quand on veut être... non pas, quand on est historien, on regarde le passé, on essaie d'expliquer le présent par le passé, mais surtout pas de projeter. Voilà, tout est possible encore.
Ce qui est intéressant, ce qui s'est passé en 2024, c'est qu'on est devant un moment surprenant pour tout le monde, d'inquiétude majeure face à l'extrême droite, la montée de l'extrême droite, le risque de victoire de l'extrême droite, et qu'à ce moment-là, ressurgit cette idée qu'en France, la droite et le fascisme n'a pas vaincu par les élections, n'est pas arrivé au pouvoir grâce au Front Populaire. C'est la dimension antifasciste qui est la plus mobilisatrice et qui est exceptionnelle, même à l'échelle européenne. Sauf que, évidemment, il y a comme une sorte de... de comportement un peu magique, comme si l'évocation du Front populaire suffirait à tenir lieu d'une solution durable et fondée. Et l'image du Front populaire, on voit à la fois qu'elle existe et en même temps qu'elle est marquée par un certain nombre de stéréotypes, c'est-à-dire on voit seulement la victoire contre le fascisme, mais on ne voit pas dans quelles conditions elle a été rendue possible, que ce soit le mouvement social, que ce soit l'unité syndicale, que ce soit un programme longuement discuté, tout ça, évidemment, dans l'urgence et dans l'émotion de 2024, n'apparaît pas. Et c'est paradoxal, parce que de 34 à 36, il a fallu 2 ans pour construire le Front populaire, et en 2024, il a fallu quelques mois pour c'est pas la belle illusion, comme certains l'ont dit, mais le projet perde de sa consistance parce qu'il n'avait pas été suffisamment préparé. Ça fait réfléchir, y compris pour aujourd'hui, en 2026.
Et 2027.
Oui.
Ouais, oula. Alors, si vous sortez ce livre-là, donc je le remontre, Les Fronts Populaires, une perspective mondiale, c'est parce que c'est les 90 ans du Front Populaire. Alors, il y a plein de choses hein, pour ces 90 ans. Il y a d'autres livres, hein, évidemment, citer le livre de Ludivine Bantini, La Bourse ou la Vie, Histoire du Front Populaire pour aujourd'hui, qui est paru à la Découverte. Hein. Je voulais aussi citer, alors ça, c'est pas un livre d'histoire, mais c'est sympa. Ouais. Voilà, le voilà. C'est un recueil de nouvelles aux éditions du Caïman. C'est des nouvelles. D'ailleurs, il y a aussi Ludivine Bantini dedans. Mais d'ailleurs, elle écrit aussi le chapitre sur les femmes et le féminisme dans votre ouvrage. Moi, j'ai fait un faux journal de Louise Weiss. Je me suis un petit peu... J'ai essayé de sortir d'une écriture historique, même historique vulgarisée. Mais vraiment, c'est super. Puis il y a plein de dessins, et notamment il y a évidemment mon dessinateur, je vais pas le trouver forcément tout de suite, vous me faites confiance, un de mes dessinateurs préférés, Fred Sochard, hein, qui fait 2 super dessins dedans. Alors, il y a aussi un merveilleux documentaire sur France 2, dont vous êtes tous les deux les conseillers historiques, hein, et que je conseille vraiment, camarades, je vous le conseille. Moi, en général, j'adore pas les documentaires historiques, on va pas se mentir, je pense que c'est un défaut des profs d'histoire, mais là, j'ai adoré. D'abord, j'ai trouvé que ça changeait complètement la perspective. Il y avait plein de choses, on y reviendra, mais justement, on parlait des paysans, on parlait... les images dans les photos de Jamais, les films, les archives de Pathé, c'est extraordinaire. Moi, la colorisation, parce que je le dis pour les autres, il y a une colorisation. Moi, ça ne m'a pas gênée, en fait. Alors qu'avant, j'étais hyper puriste, hein, ça ne m'a pas gênée. Et en fait, je me suis rendu compte pourquoi ça ne m'a pas gênée, parce que ça permettait de voir les drapeaux rouges. Et ça, je trouve que c'est bien. Qu'est-ce que ça a été chouette, cette expérience de documentaire ?
Ah bah oui, c'était une très belle expérience. Fabien Bézia et Hugues Nancy, qui ont mené cette expérience, nous ont sollicité tous les deux avec Serge dès le début, et on a bien discuté, on a pris le temps. Et c'est ça qui est intéressant dans un documentaire, c'est de prendre le temps d'expliquer, nous, notre métier d'historien et comment on travaille, comment on va aux archives, etc.
Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'ils ont pris le temps de lire les ouvrages.
Oui, et ils avaient lu tous nos ouvrages.
Ça se sent, hein.
Et ils s'étaient vraiment imprégnés de ce que l'on fait comme travaux. Mais il y a eu des discussions. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce documentaire, c'est une histoire incarnée à hauteur d'histoire de vie par en bas. Et on a, alors bien sûr, pour certains, des témoignages, puisqu'ils sont disparus, mais qui avaient été enregistrés à certains moments, et Serge pourra en parler, puisqu'il l'avait interrogé auparavant, mais surtout des témoignages de petits-enfants, d'enfants ou de petits-enfants, mais avec une émotion.
Le petit-fils du colonel de la Roque, ça fait waouh.
Ça, oui, c'est vrai, ça
mais
fait waouh.
Mais c'est bien qu'il y soit aussi.
Mais il faut tout dire, parce que faut pas être dans ce point de vue-là, faut savoir que quand même, comme le dit Gilles Richard dans le film, c'est pas 80% Front Populaire et 20% les droites, c'est 50-50, ça se joue à pas grand chose, enfin c'est pas 50-50, on va dire c'est 51-49 pour être plus proche de la réalité. Il y a deux France Donc, il y a quand même ce face-à-face. Et comment se joue ce face-à-face en permanence. Mais au-delà de ça, moi, celle que je retiens comme image, mais dans toutes, hein, toutes je les adore, etc., c'est cette petite fille d'ouvrier de Michelin,
oui,
à Clermont-Ferrand,
ouais, ouais,
qui raconte la vie,
ouais,
de sa mère, de la grand-mère, pardon, ouais, de son père aussi, qui lui, dans une autre vie, a fait les Jeux Olympiques de Berlin. Et c'était une émotion pure.
Ouais,
et
ouais,
ça, c'est intéressant parce que, bien sûr, il faut de la raison. Mais de temps en temps, c'est bien aussi d'incarner l'histoire, ouais, et pas simplement d'être dans des logiques rationnelles.
Oui, mais d'ailleurs, ouais, il y a un moment où, Serge, on te fait écouter un témoignage, voilà, hein, et c'est super à la fois d'écouter le témoignage et voir ta réaction au témoignage. Et
oui, parce que pour moi, il y a quelque chose d'émouvant dans la mesure où ces enregistrements, je les ai faits en 1986 à Aubervilliers, auprès de femmes, notamment, mais aussi d'hommes, qui avaient été des acteurs du Front populaire sur place à Aubervilliers en 1936. On était en 86, c'était le cinquantenaire, ils étaient toujours là, et effectivement, les entendre parler de ce qu'était à la fois leurs conditions de vie, comment ils avaient occupé l'usine, et leur découverte même, leur surprise devant le mouvement, parce qu'ils sont à la fois acteurs du mouvement, mais ce mouvement, ils y participent, et en même temps, ils découvrent ce qu'on pourra appeler la puissance du mouvement collectif, parce qu'ils étaient isolés dans telle ou telle usine, les femmes étaient reléguées dans des tâches qui étaient vraiment des tâches subalternes. Là, Aubervilliers, c'était les abattoirs, les boyauderies, c'était les métiers les plus sales, les plus discrédités, et qui d'un seul coup retrouvent une dignité et s'affirment dans ce mouvement. Et là, il y avait quelque chose évidemment de très émouvant.
Ben oui,
au-delà,
ouais,
du fait que moi, j'ai retrouvé un travail documentaire que j'avais fait il y a 40 ans. Et le fait, pour un historien, de se dire « j'ai contribué à constituer des archives orales qui vont être utilisables et utilisées 40 ans plus tard », il y a quelque chose aussi d'intéressant et finalement même d'émouvant.
Bref, donc, je conseille ce docu qui est vraiment super. Pourtant, je pense, enfin, je ne suis pas du tout spécialiste du Front populaire, hein, on va pas, enfin, mais je connais un petit peu quand même, enfin, en tout cas, et il y a des images que je n'avais jamais vues.
Voilà, il y a des images nouvelles, ça c'est vrai, il y a eu une recherche documentaire magnifique.
Ah ouais.
Il y a même une photo, alors, on a cru à un moment donné, mais ce n'est pas du tout ça, mais où on voit, puisqu'on évoquait les accords Matignon, ouais, les enjeux, la seule femme,
Martha Desrumeaux. Martha
Desrumeaux, voilà.
Et
elle surgit, voilà, et elle surgit, et c'est génial. Pour Matignon, c'est une délégation effectivement du Nord qui vient voir le gouvernement.
Oui, parce qu'à Matignon, il n'y a pas de femme.
Voilà, non, si, elle y est à Matignon.
Elle y est.
Mais sauf qu'elle a été pendant longtemps, on va dire, oubliée.
Parce que sur les photos de Matignon, on ne la voit jamais.
Invisibilisée. Ouais, si tu veux.
Ouais. Et voilà. Pourtant, c'est Martha Desrumeaux, puisque
on
peut en dire un mot, qui a fait un travail extraordinaire dans les jours qui ont précédé. Elle a, en liaison avec Benoît Frachon, qui était le secrétaire général adjoint de la CGT, et l'ancien dirigeant de la CGTU, elle a collecté les bulletins de salaire des ouvriers et des ouvrières du Nord, et c'est grâce à ces bulletins de salaire que les syndicalistes vont mettre ça sur la table, ouais, devant, ouais, le patronat, en disant, vous savez combien gagnent les ouvriers et les ouvrières, ouais. Et elle avait fait ce ouais, travail de
les patrons
de
ont été étonnés en mode, ah, oui, putain, c'est,
oui,
si bas,
ouais, oui, voilà, c'est si bas, voilà, et c'était intéressant de voir ces images, mais il y a plein d'autres archives.
Mais c'est vrai que quand elle est passée, j'étais en train de regarder, ouais,
elle
fais, oh putain, une femme,
ouais, ouais. Et elle surgit, et c'est chouette, mais il y a plein d'autres images qui sont allées chercher,
ah ouais, mais
même celle de 1933 sur Citroën, voilà, et la publicité,
ouais,
sur la Tour Eiffel.
Ah ouais, ouais.
On a pu voir ici ou là des photos, mais
le film
avec les,
ouais,
ouvriers et les risques qu'ils prennent.
Et les films de 1934 aussi.
Ouais.
Alors, c'est ceux qui étaient partis à Londres et qui sont revenus.
C'est ceux, je crois, qui étaient dans le fond Pivert.
C'est ça. Ouais.
Parce que c'est Pivert, n'oublions pas, hein, que Marceau Pivert, il a un rôle important pendant le Front populaire. On garde tous en mémoire, tout est possible, etc. Tout est possible, c'est en mai qu'il écrit ça, pour peser sur le congrès extraordinaire de la SFIO, hein, pour dire, bah, on existe, la gauche de la SFIO, on est là. Et lui, tout de suite, il est pris au gouvernement, non pas dans un cabinet ministériel, mais pour s'occuper de tout ce qui est la propagande. Et il y a plein de films, plein de photos, et ce fond, pendant longtemps, a été un peu oublié, on va dire.
Mmh. En tout cas, voilà. Alors, il y a autre chose, et là, je vais avoir besoin de toi, Nayan. C'est une exposition en ligne qui s'appelle « La vie est à nous », qui a été réalisée par la Fondation Gabriel Péri, qui a été conçue par Louise Gaxi et Oel Lemoal, et dont vous êtes tous les deux au conseil scientifique. Alors, peut-être, avant de naviguer sur le site, parce qu'on va naviguer un peu ensemble, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la Fondation Gabriel Péri?
Vas-y, Serge. Tu es le président du conseil scientifique, donc vas-y.
Donc la Fondation Gabriel Péri, c'est une fondation qui fait partie de ces fondations qui, au début des années 2000, au temps où la gauche plurielle était au gouvernement, on a créé en France, enfin, des fondations qui étaient des fondations liées à des courants de pensée. À des courants de pensée ou à des forces politiques. Ainsi la fondation Jean Jaurès, ainsi la fondation Fondapol liée à la droite, c'était l'UMP à ce moment-là, oui. Je pense, je me souviens. Oui, c'est ça. Et puis la fondation Gabriel Péri qui était liée au courant communiste. Vous voyez, j'insiste sur l'idée qu'à la fois il y a une proximité avec le Parti communiste dans ses fondations, au moment où c'était Robert Hue qui était le secrétaire national du PC, et en même temps une fondation qui a sa propre dynamique, qui est pas programmée par l'activité politique quotidienne du PC. Et l'idée dans la fondation Gabriel Péri, moi je me suis occupé des archives et de ce qu'on pourrait appeler la mémoire patrimoniale du mouvement ouvrier, du mouvement communiste, en liaison avec les archives nationales et avec les archives les archives nationales et avec Jean Vigreux qui est à mes côtés. On a travaillé pendant 20 ans, oui, à la Constitution à peu près, depuis le début des années 2000, du XXe siècle, à essayer de constituer en France des archives, des mouvements sociaux et des organisations politiques dans l'orbite du mouvement communiste, pas seulement français, mais international. Il a fallu faire des efforts parce qu'il fallait aller pêcher ça souvent à Moscou et qu'à Moscou, dans la nouvelle Russie d'Eltsine puis de Poutine, tout se paye. Et donc, il a fallu faire des efforts pour obtenir une partie des archives avec le CDRS, etc. Et les archives nationales. Toujours est-il que la Fondation Gabriel Péri, sur son site et sur le site de la Maison des sciences de l'homme de Dijon, qui a été un peu l'opérateur technique mais aussi intellectuel de cette ambition, on peut consulter, c'est le seul endroit en France, on peut consulter des archives qui sont les archives dites russes, mais qui sont en fait des archives envoyées de France à Moscou au temps de l'international communiste, pour souvent découvrir une partie de la réalité politique française de l'époque. Il faut dire qu'à l'époque, autrement, les archives des partis politiques sont très mal conservées. Il y a des bribes qui existent à Sciences Po, il y a des bribes qui existent évidemment dans les archives dites de la surveillance des archives nationales, mais des archives internes d'organisation en longue durée, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup ailleurs. Donc c'est un peu spécifique. Alors revenons à 2026. En 2026, l'idée est apparue que ça serait bien de faire une expo numérique qui serait mise à disposition des militants, des départements, des gens qui voudraient, et c'est donc qui voudraient s'en emparer. Cette expo, elle est à la fois sur le site de la Fondation Gabriel Péri, mais elle est aussi utilisable localement.
On peut l'imprimer.
Hein, voilà, c'est une démarche aussi pédagogique.
On va juste la regarder. Donc la vie est à nous. Et alors,
la vie est à nous.
C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à Jean Renoir.
Donc là, voyez, on a le choix, présentation, exposition, chronologie, voilà. Histoire du Front populaire, donc là c'est un peu une intro. Et si on descend un tout petit peu, voilà, l'exposition. On peut choisir, il y a 10 chapitres. Alors, on peut en prendre un, vous voulez lequel,
hein. Peu importe, celui que tu veux. Moi.
Allez, Victoire, ça fait du bien, parce que c'est pas comme si on en avait...
D'accord.
Voilà, donc si on déroule, donc il y a un certain nombre de documents, mais je vous laisse peut-être, vous, parce que vous êtes plus...
Il n'y a pas de souci. L'idée, c'était de mettre des documents d'époque. Bien sûr, comme c'est une exposition numérique, c'est de mettre de l'image. et de présenter les affiches. Alors là, il y avait l'affiche de la campagne électorale du Parti communiste. Il y avait les affiches aussi des droites hein, qui montraient ce sont les soviets qui tirent les ficelles du Front populaire, donc le Parti de l'étranger, Moscou et toutes ces logiques-là. Mais on voyait les enjeux de la campagne.
Oui, un mot sur Regard, parce que on travaille avec le musée de Montreuil d'Histoire vivante, voilà. Qui fait un séminaire sur le regard photographique on joue sur les mots, mais les regards au moment du Front populaire.
Et donc là, c'était effectivement le pain, l'appel à la liberté, donc le slogan, on va dire, repris de cette alliance. Et puis, puisque c'est la victoire, donc comment on va de l'avant, comment on présente cette victoire. Mais l'autre, si on peut remonter un tout petit peu, pour le pain, l'appel à la liberté, donc le PC qui reprend le slogan, mais chaque parti aura sa propre campagne. Et là, c'est l'expo telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut l'imprimer, on peut la présenter. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y aura un deuxième temps de l'exposition. On ajoute, en ce moment, on est en train de faire des focus. Parce que c'est le numérique nous le permet.
Il y en a quelques-uns. Il y en a déjà quelques-uns. J'avais vérifié hier.
Voilà.
Donc bon, là, c'est, on
bon,
est
là,
toujours...
c'est la Chambre des députés, ce qui permet de voir, en fin de compte, ce qu'on n'attendait pas.
Donc, des documents. Voilà. Et voilà, les focus. Voilà. Et
les résultats.
Et si on clique sur un focus, on a énormément de ressources.
Hein. Voilà. Et voilà, l'idée, c'était de donner accessible à tout le monde. Serge disait un public général, effectivement, eh bien, où on en est aujourd'hui des connaissances et de la lecture que l'on peut avoir, de la mise en récit des fronts populaires.
Toi, tu avais un focus aussi. Moi, j'ai un focus. Ouais, je ne l'ai pas fini encore.
Moi, j'en avais plusieurs. Je les ai... voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
On fait comme on peut. Hein,
ouais, on fait comme on peut. Voilà. Voilà. Hein. Mais l'intérêt, c'est.
Il fait déjà beaucoup.
C'est de donner à tous la possibilité de comprendre ce qu'est le Front populaire, loin seulement des clichés, des mythes, des représentations ici ou là. Quoi. C'est de rentrer dans. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi, vainqueur, que va faire le Front populaire, cette grande question.
Alors, il y a Marx attaque, attention, ouais. Hein, qui dit « Le virtuel, c'est cool, mais je préférerais regarder les papiers directement. J'aime le vieux papier gorgé d'histoire. Oui. » Oui, je suis d'accord, mais...
Elle est imprimée aussi. Elle est imprimable, hein. Attention.
Oui, mais ce n'est pas la vraie source. Mais c'est difficile d'aller voir les vraies sources.
Ah oui, mais on ne peut pas exposer les vraies sources pour que ça circule.
Ouais.
Voilà, les deux sont possibles. Elle peut être imprimée. Il y a plusieurs panneaux, kakémono, enfin, c'est classique maintenant, etc. Voilà. Après, bon, bien sûr, si chacun veut consulter les archives, il va falloir bouger un peu partout parce qu'il n'y a pas que des archives nationales.
Justement, le fameux Marx attaque demande à Eurial, mais comme ça, vous pourrez aider Eurial, le lien du lieu pour consulter les archives, donc à Dijon.
Oui. Ah, alors, le lien, c'est facile, c'est Pandore, portail d'archives numériques de documentation et de la recherche. Vous tapez ça et MSH Dijon, donc Maison des sciences de l'homme autrefois, mais maintenant c'est Maison des sciences sociales et humaines, hein, puisque le nom a changé, mais c'est toujours le sigle MSH. C'est dans ce cadre-là qu'avec Serge, pendant 20 ans, 30 ans, même peut-être à peine plus, non, 30 ans, on a mis en ligne toutes les archives du Parti communiste français liées à l'Internationale communiste de 1917 jusqu'à 1995. Donc, il n'y avait plus d'Internationale communiste. Mais c'est un accord avec la Fondation Gabriel Péri, les archives du Parti communiste, les archives de Seine-Saint-Denis, également Bobigny, puisqu'il y a le dépôt, et l'Université de Bourgogne et la Maison des sciences de l'homme, où on a numérisé, indexé, donc on a fait un index au nom, au lieu géographique, etc., au thème, toutes ces archives, page à page, feuille à feuille, ce qui vous permet de retrouver eh bien, des choses parfois complètement oubliées, ou alors des choses inattendues. Le procès Marty-Tillon après-guerre, même si on n'est pas dans la logique là, du Front populaire, mais quoique, il peut y avoir des éléments qui renvoient à ça, eh bien, il est en entier présenté, parce qu'il est énorme, ça fait plus de 200 pages. Donc voilà, c'est un accès pour tout le monde à ces archives, parce qu'on a le droit d'avoir accès aux archives, on a le droit de comprendre. Alors, pas les archives pour les archives. Je sais qu'aujourd'hui, c'est à la mode de dire les archives, les archives, les archives. Sauf que les archives, elles ne reproduisent que pourquoi elles ont été créées.
Ben oui.
Elles ont été créées soit par la police, soit par l'organisation. Donc, elles ont un biais cognitif. Et il faut quand même se dire que ce sont les problématiques qui font l'histoire et pas seulement les archives.
Juste un clin d'œil à ceux qui aujourd'hui découvrent que les archives, c'est très important. Nous, on le sait depuis très très longtemps. C'est pour ça qu'on a voulu rendre accessibles les archives. Or, un des problèmes aujourd'hui de l'accès aux archives, en principe, tout le monde a accès aux archives.
C'est un droit, oui.
Et un droit, mais dans la pratique, la mise à disposition au moins de certains fonds qui sont des fonds par ailleurs inaccessibles. Regardez, si on n'avait pas fait ce travail, eh bien, ces archives qui étaient à Moscou seraient de nouveau inaccessibles. Hein. Et deuxièmement, il y a aussi l'idée que ces archives, elles vont permettre à des étudiants, à des jeunes chercheurs, de leur mettre le pied à l'étrier, de commencer des recherches. Après, ils iront travailler dans des centres d'archives. Et surtout, c'est aussi l'idée que il n'y a pas de propriété de ces archives de ceux qui les ont produites il y a 50 ou 60 ans. Elles doivent tomber vraiment dans le domaine public. Voilà. Je parle notamment des organisations. Aujourd'hui, si vous regardez bien une partie des archives politiques, elles sont dans des institutions, dans on peut dire des enceintes où le contrôle même 50 ans ou 70 ans après continue d'être exercé par des institutions qui considèrent que ça reste leur propriété. Le paradoxe, c'est que nous, on a réussi, sans doute c'est lié à l'histoire de l'affaiblissement du PC, mais à faire que ce soit les archives du PC et du mouvement communiste qui soient versées vraiment dans le domaine public et soient accessibles.
Et juste pour compléter, ce ne sera pas trop long, parce qu'on reviendra sur le Front populaire, l'idée quand Serge avait bâti, construit ça, etc., j'ai eu la chance de succéder, c'était un peu ça, hein, ce qui s'est passé, et j'ai eu la chance à ce moment-là, puisqu'on parlait des financements de la recherche, c'était toujours la difficulté, d'obtenir, tu sais, une ANR.
The Graal.
Mais on s'en fout, ce qui compte, c'est le résultat. Il faut prendre l'argent là où il est, j'ai ce vieux principe du Front populaire. Donc, on avait construit une ANR Corpus qui s'appelait Paprika, portail d'archives politiques de recherche d'indexation du Comintern et des fonds français. Deux F, parce que c'était les fonds français.
De l'art du sigle.
C'était pas mal, enfin je trouve, mais au-delà de ça, c'est que les archives nationales ont joué le jeu. Et ce qui était génial, c'est qu'on a pu mettre en relation d'un côté les archives de l'organisation et des organisations, les rapports, ce qu'évoquait Serge tout à l'heure, et de l'autre côté les archives de police, de surveillance de police. Et dans ces archives de surveillance de police, il y a des fonds qui sont revenus de Moscou. Parce que Sophie Curé l'avait très bien montré, ils avaient été spoliés par les nazis en 40, récupérés par les soviétiques en 45, et ils étaient restés à Moscou. Ils sont revenus en France que dans les années 90-2000. Ouais. C'est les fameux fonds de Moscou qui sont aux archives nationales à Pierrefitte. Ouais.
Qui sont fonds de Moscou, mais qui en fait sont des archives françaises,
de la police. Et juste une dernière incise par rapport à ça, on a récupéré aussi les archives de la série Z4. Alors là, tu vois, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'était les activités dites terroristes, anarchistes et communistes, où, avec des étudiants de Dijon, pour une fois, c'était super, on les a amenés aux archives nationales, on a pris les ciseaux, clac, on a coupé, on les a décellés parce qu'elles étaient scellées. C'était des archives judiciaires. Ouais. Et des archives judiciaires qui avaient été faites pendant la guerre pour juger des communistes pour faits de résistance, mais on prenait tout ce qu'ils avaient chez eux. Et ce qui fait que dedans, au milieu, tu tombais sur un album du Front populaire. Et là, tu étais ému parce que tu voyais des gens qui prenaient leurs premières vacances. Tu voyais les jeux, tu voyais le sport à la plage, tu voyais le théâtre à la plage, des choses qu'on n'avait jamais vues. Alors, il faut bien sûr y aller, il faut les revisiter, il faut les retravailler. Il y a plein de choses encore à faire. Mais ça veut dire que ces archives de surveillance de police, elles sont toujours construites à des fins. Et les fins, c'était pour
surveillance.
Montrer... surveillance, etc. Ouais. Voilà, j'en ai trop dit, pardon. Revenons au Front populaire. C'est ce qui nous permet aussi de comprendre comment on travaille.
Je le dis aux camarades du chat, si on met trois historiens et historiennes dans une salle, ils finissent par parler d'archives. C'est le goût de l'archive. On essaie de vous le transmettre le plus possible, à la fois ceux qui nous écoutent, et puis alors nos étudiants, on essaie évidemment plus encore, mais quand ça vous prend. C'est quelque chose, l'archive. Alors, on va quand même avancer un tout petit peu, parce que le temps passe. On va revenir un peu sur la question du Front Populaire. Souvent, les gens qui ne font pas d'histoire, ils se demandent, mais pourquoi est-ce qu'on fait un nouveau livre sur Front Populaire? Finalement, vous en avez déjà fait plein d'autres. Qu'est-ce que vous avez de neuf dans celui-là? Donc, moi, je sais. Mais la question, c'est quelles questions vous vous êtes posées? Quelle approche nouvelle vous avez dans ce livre? Quelles nouvelles sources? Alors, vous l'avez dit un peu sur les sources, donc on va peut-être être plus rapide sur les sources, mais justement, quelles nouvelles approches? Et comme je sais votre réponse, ça me permettra d'enchaîner par la suite.
Bon, alors je vais y aller, mais enfin, c'est quelque chose qu'on a construit ensemble avec Serge. L'idée, c'était de proposer une lecture internationale, pourquoi pas internationaliste aussi, de penser, en fin de compte, les fronts populaires à l'échelle mondiale. Alors, ça aurait été peut-être prétentieux de notre part de dire une histoire mondiale des fronts populaires, donc on préfère dire perspective mondiale, ce qui permet de comprendre, en fin de compte, les temporalités, les échanges, les connexions qui peuvent exister à l'échelle monde, et puis de relire des événements à l'aune du moment front populaire, c'est-à-dire de la riposte antifasciste, de la défense de la démocratie libérale, la République, mais pas partout la République, hein, dans d'autres endroits, ça peut être d'autres formes de régime, et les effets induits de cette nouvelle ligne qui a été prise au 7e Congrès international communiste à Moscou en 1935. Donc, et l'aboutissement du laboratoire français sous certains aspects. Mais il n'y a pas que ça. Comment d'autres pays se l'approprient ou pas? Eh bien, c'était ça qu'on a voulu montrer, et ainsi en le prenant du côté d'une chronologie qui n'est pas toujours au même moment. Il peut y avoir des chronologies décalées. Je prends un exemple pour tout de suite expliciter. Le Front populaire en France, on va dire, c'est 1934-1938. Le Front populaire en Espagne, c'est effectivement 1934 sous certains aspects, 1936 jusqu'à 1938-39. Après, c'est la victoire de Franco, on ne revient pas là-dessus, etc. Mais le Front populaire chilien, c'est 1938-1941. C'est-à-dire que lui, il commence quand les deux fronts populaires européens sont finis, quasiment. Donc, pourquoi ça perdure? Pourquoi ça continue? Quel espoir, puisque tu évoquais le documentaire « Joie et colère », quelle joie ça a pu procurer et quelle colère était présente? Et puis, surtout, de se dire comment ont réagi les fascistes? Comment ont réagi les nazis face à ça? Comment les droites ont réagi face au Front populaire? Et comment aussi, dans des espaces géographiques, des territoires, l'Europe du Nord a été hermétique au Front populaire, c'est-à-dire une social-démocratie qui refuse l'alliance avec les communistes, mettant sur le même plan et le même point fasciste d'un côté et communiste de l'autre. Donc c'était de penser tout ça, tout en regardant qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Tiens, il y a des grèves aux États-Unis. Ça ne serait pas intéressant de regarder que les grèves qui ont lieu à ce moment-là, elles ont quelque chose à voir avec celles qui sont aussi en France, en Belgique? Eh bien voilà, c'était un peu l'idée. Le sport, tu as évoqué Berlin. Eh bien, les Jeux Olympiques de Berlin. On voulait boycotter ces Jeux Olympiques. Chose que pendant longtemps, on n'en parle plus de tout ça. Mais oui, le boycott, ça existe depuis longtemps. Eh bien, le Front populaire dit d'accord, on ne boycotte pas. On met une subvention, on permet aux athlètes d'y aller. Mais on finance la contre-olympiade qui est à Barcelone. Voilà, c'était regarder par ces choses, qu'est-ce qui était connecté, qu'est-ce qui permettait de voir. Et puis, n'oublions pas, en 1936, les élections aux États-Unis, Roosevelt, soutenu par le Parti communiste. Donc, ça nous permet de voir aussi des fronts populaires ou au moins les effets induits du Front populaire ailleurs. Le Mexique et plein d'autres pays, puisque c'est un peu ce qui se joue.
Oui, cette idée du regard mondialisé du Front populaire, c'est une approche qui, en même temps, comme Jean l'évoquait, une approche différenciée. C'est pas une approche franco-française. Certains font, par exemple, aujourd'hui, souvent, l'histoire mondiale de la France. Nous, on n'a pas cherché, en quelque sorte, à comprendre comment le Front populaire, parti effectivement de l'expérience française et de sa généralisation, notamment par l'intermédiaire de l'Internationale communiste, comment le processus avait pris des formes très variées et très inégales, sans parler des oppositions. En complétant ce que dit Jean, je prends l'exemple de la Chine. La Chine fait partie de ce mouvement mondial qui est marqué par l'expérience du Front populaire. N'oublions pas que c'est un pays dans lequel il y a une guerre civile massive depuis 1927 entre les nationalistes et les communistes, et qu'en même temps, c'est un pays qui est soumis à une entreprise de domination fasciste où les Japonais n'ont rien à envier aux nazis. Et leur politique de répression et d'extermination d'une partie du peuple chinois se développe dès 1931 et prend une forme exacerbée et généralisée en 1937 avec l'attaque de toute la Chine. Or là, on voit arriver en Chine la création d'un front patriotique anti-japonais qui pose des problèmes considérables de l'alliance entre les nationalistes et les communistes et qui se fait en écho au front populaire et à l'international. Jusqu'alors, en quelque sorte, le lien n'avait pas été fait. Nous, on a fait ce lien en revisitant l'histoire chinoise. Et l'autre aspect qui est souvent décrié et mal connu, c'est l'importance et les limites du Front populaire dans le monde colonial. Le Front populaire a eu un écho dans le monde colonial et en même temps, il jette des bases, il sème des graines, mais sur le fond, il n'est pas un moment d'émancipation des colonies. Et cette question nous est apparue absolument indispensable à examiner. Pourquoi, je dis en un mot, alors on pourra sans doute y revenir, les colonies, elles se sont constituées sur la base d'une domination de l'Europe sur le monde dominé à la fin du 19e et la constitution des grands empires britanniques et français, pour aller vite, mais belges aussi. Or, pour une part, le Front populaire antifasciste est d'abord un événement européen et français. Voilà, pour l'Angleterre, il est très limité et les effets dans l'Empire anglais sont limités, si ce n'est des effets induits dans l'Union indienne, mais qui sont vraiment en périphérie. En Afrique subsaharienne, en Afrique du Sud et au Maghreb, comme en Indochine, dans l'Empire français, le Front populaire a des échos, mais une partie des membres du Front populaire qui sont très puissants dans les colonies, pour ne pas tourner autour du pot, les radicaux et les socialistes restent profondément colonialistes. Et le Parti communiste, dans sa stratégie européenne et l'internationale communiste, a changé de priorité. Il a priorité, c'est la lutte contre le fascisme, et pour l'heure, on met en quelque sorte un peu en sourdine l'émancipation nationale.
Oui, c'est tout à fait ça. Parfait. Et on peut rajouter encore un autre exemple dans cette dimension que tu évoques de l'Afrique. Ne jamais oublier que le fascisme, c'est la guerre et que l'expansion fasciste, c'est l'Éthiopie. Et donc, sont toutes les mobilisations en 1935 qui se mettent en place par le Secours Rouge International, étudié par Corentin Lahut, qui nous permet de comprendre effectivement ces enjeux. On dirait à une autre époque des Suds ou en tout cas des dominés et comment ça se joue. En revanche, ce que dit bien Serge, c'est ça crée un immense espoir dans les colonies et il y a une très forte désillusion, c'est certain, mais ça a semé les graines d'autres choses. N'oublions pas, par exemple, d'un point de vue culturel, les maisons de la culture. Celle d'Alger, avec Camus.
Il y a un très bel article, chapitre sur...
C'est Pierre Daréville et Guillaume Roux-Bokouachi.
Ouais, c'est passionnant sur la maison de la culture d'Alger.
Sur la maison de la culture, c'est-à-dire de penser, en fin de compte, cet apport culturel pour tous. Parce que le Front populaire, on a oublié de le dire, on a parlé politique sociale, c'est trois dimensions. C'est trois dimensions, c'est la dimension sociale, politique et culturelle. D'idée d'émancipation par la culture. Et ça, c'est fondamental.
Ouais. Je pense que les camarades du chat auront compris la perspective extrêmement intéressante et vraiment différente des autres livres, enfin des travaux précédents sur le Front populaire, c'est cette perspective mondiale. Et en plus, ça tombe bien pour moi puisque il y a déjà eu une émission, je l'ai dit, sur le Front populaire ici au Poste avec Pierre Salmon et Dimitri Manessis que vous connaissez tous les deux, qui était en 2024 pour réagir justement à ce surgissement du mot. Et pour partie de la mémoire, voire du souffle. Et ils étaient restés. Alors, pas que franco-français, puisque Pierre Salmon, c'est un spécialiste de la guerre d'Espagne. Je l'ai invité aussi ici avec Mercedes Yusta sur la guerre d'Espagne, mais c'était France-Espagne, etc. Uniquement. Alors que vous, voilà, vous ouvrez beaucoup plus. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un Front populaire au Chili avant de vous lire. Bon, après, c'est pas ma période, hein, mais j'étais tellement heureuse de voir ça, parce que j'ai un truc personnel avec le Chili. Le père de mon fils est chilien, donc mon fils s'appelle Esteban Allende, donc tu vois,
Le jeune Allende était dans l'expérience du Chili de 1938.
Ah, mais tellement génial.
Il est en photo dans le livre.
Voilà, mais oui, je sais. Et voilà. Donc c'est vraiment cette partie. Enfin, c'est la grande force et le grand intérêt de cet ouvrage. Alors, vous dites que le Front populaire, c'est, j'ai bien aimé cette expression, un événement monde. Hein, vous le dites dans la conclusion. Un de vos auteurs part du souffle mondial du Front populaire, j'aime bien aussi. Comment expliquer ce qui, quand on regarde un peu de l'extérieur, relève de la simultanéité, relève sans doute, mais là il faut que l'historien cherche, de la circulation. Oui. Voilà. Est-ce que c'est parce que le contexte est le même et le moteur qui pousse à l'union est la même, donc l'antifascisme, voilà. Est-ce que c'est parce que l'idée circule, et dans ce cas-là, comment elle circule? Est-ce que c'est parce que l'international communiste, je me tourne vers toi Serge, le Comintern a dit de faire ça et que donc les gens font ça? Voilà. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait cet événement monde Front populaire?
Tu as recensé une série de facteurs possibles.
Oui, c'est le but des questions.
Et je pense que...
Ces
facteurs possibles ont joué ensemble. C'est ça qui explique une partie de cette réussite. Parce que lancer des mots d'ordre internationaux, c'est pas difficile. Après, faire que ces mots d'ordre deviennent des réalités effectives, c'est autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quand le dernier congrès de l'international communiste, celui qui fait le discours, qui s'appuie sur l'expérience française, mais qui en même temps est le porteur de cette idée qu'il faut internationaliser le mot d'ordre de Front populaire, c'est Georges Dimitrov. Georges Dimitrov, c'est un Bulgare qui dirige depuis un an seulement l'international communiste parce qu'il est devenu le symbole de l'antifascisme. C'est lui qui, en quelque sorte, a mis en difficulté Göring et Goebbels et Hitler lorsque ceux-ci ont monté un procès en Allemagne pour imputer à Dimitrov et à d'autres dirigeants communistes allemands, mais lui, il était étranger, la responsabilité de l'incendie du Reichstag. Avec le mouvement de solidarité internationale qui s'est fait, le régime nazi encore peu solide a d'ailleurs en a tiré les conclusions, c'est la dernière fois qu'il fait un grand procès public. Il n'y aura plus de procès public en Allemagne nazie après. Toujours est-il que Dimitrov est acquitté et qu'il devient ce symbole de l'antifascisme et en même temps de l'international communiste. Et au mois de juillet-août 1935, il y a à peu près une soixantaine de partis communistes du monde entier qui sont réunis à Moscou. Et là, à côté d'autres dirigeants communistes qui continuent de répéter ce qu'on pourrait appeler le traditionnel discours de l'opposition, classe contre classe, la lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat. Lui, il dit la question à la fois de la défense démocratique et de la nation devient une question urgente pour le prolétariat. Les milieux populaires doivent s'emparer de cette question et ne pas la laisser à l'extrême droite et au fascisme, parce qu'il y a une crise économique mondiale, parce qu'il y a une crise qui s'est développée dans les grands pays capitalistes. Il n'abandonne pas une analyse de classe, mais il transforme cette analyse classique, si j'ose dire, de classe, en une analyse concrète du moment politique à la fois européen et international. Sans doute, ça a été un facteur de ce qu'on pourrait appeler la dissémination du mot d'ordre. Mais sans doute aussi, il y a un phénomène que j'évoquais à propos de la Chine, de l'Asie, qu'on peut évoquer aussi au niveau de l'Amérique latine et de l'Amérique, c'est que c'est un moment de crise économique mondiale du capitalisme et qui touche pas seulement le monde industriel, mais le monde paysan. Et notamment les pays où les producteurs de matières premières, les paysans, dans des systèmes de dépendance coloniale, voient s'effondrer le prix de leur production. Alors, selon les conditions politiques de chaque pays, ça se traduit différemment. C'est-à-dire que l'écho du Front populaire n'est pas le même selon les pays et selon les régions du monde. Ah oui. Mais en même temps, cette dimension mondiale de la crise, cette dimension de cette diffusion mondiale du mot d'ordre est un élément important. En même temps, si on parle du mouvement ouvrier international, à cette époque, le mouvement socialiste est essentiellement européen. Il a peu d'impact à l'échelle internationale. Et en Europe, un des grands échecs de la diffusion et de la dissémination du mot d'ordre, c'est l'impossibilité de l'entente entre l'international socialiste et l'international communiste. Et ça a profondément marqué toute une partie de l'Europe. Il faut dire qu'après la défaite allemande et de la social-démocratie allemande, ceux qui dirigent l'international socialiste, c'est le monde anglo-saxon européen, pour aller vite. Et ce monde anglo-saxon européen, il n'a pas du tout les mêmes traditions qu'en Allemagne ou qu'en France ou qu'en Espagne ou en Italie. Il est considérablement, si j'ose dire, habité par l'idée que le compromis social-démocrate, les grandes réformes de l'État, mettent à l'abri tous ces pays où la social-démocratie est puissante, à l'abri du fascisme. Et cette idée est vraiment... Et quant à l'Angleterre, le monde travailliste qui est l'équivalent du socialisme européen dans une particularité, ce monde travailliste, même Dimitri Manessis, Le Monde pour l'Irlande, il est travaillé par une question qui est celle de le fait que l'empire colonial reste une ressource, et que l'Angleterre, et pas seulement la Grande-Bretagne, mais l'Angleterre, par ses propres ressources coloniales, est à l'abri et de la crise et des difficultés.
Ouais. Et ça, c'est un des éléments qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire que ça ne remet pas en cause, et c'est bien là, on va dire, les désillusions, l'ordre colonial. Il y a eu des améliorations, des gens qui ont été amnistiés, des nouveaux gouverneurs, moins de répression politique, mais dès que ça commence à coincer, ça reprend cette logique de répression. En revanche, sur le chat, dans la circulation... Oui, pardon.
Oui, je disais, sur le chat, il y a... Alors, il est parti, mais je me souviens, donc je crois que c'est BM1018, ouais. Alors c'est peut-être 1018, mais 1018, ouais. à cause des éditions, qui dit, mais donc, les Fronts Populaires, c'est un truc de blanc pour les Blancs.
Alors, c'est pas si simple que ça. Peut-être que ce qu'on a dit ne reflète pas l'entièreté. Reprenons par exemple en Algérie l'étoile nord-africaine qui a un rôle important où on voit le 14 juillet 1936, les femmes voilées manifestant, point levé, une très belle photo qu'on avait utilisée au musée d'histoire vivante pour l'exposition il y a 10 ans, qui vient de Radar, qui est un centre de ressources d'archives qui était lié à Rouge et à la Ligue communiste révolutionnaire à l'époque, me semble-t-il, ou en tout cas NPA, enfin bon, peu importe, et qui montrait cette photographie, cet espoir suscité, et en même temps la désillusion. On est entièrement d'accord, parce que les accords Blum-Violette, ils n'aboutissent pas, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Mais, puisque tu demandais la circulation, comment ça s'est connecté, comment ça s'est fait ? Serge a donné une réponse. Il faut voir que les délégués de l'international communiste, ils venaient de tous les partis communistes du monde. Et il y avait des partis communistes, bien sûr, en Asie, il y en avait en Afrique, et en particulier, il y avait une délégation qui était importante, c'était celle d'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, il ne faut jamais perdre de vue que c'est le moment où se joue, effectivement, une rupture par rapport à une conception ancienne du parti qui était faite de blancs, et pour des blancs, mais qui faisait la lutte des classes, mais avec les blancs dominant, bien sûr, la ségrégation et les logiques que l'on connaît qui existent. Mais c'est le surgissement, à ce moment-là, de militants issus des quartiers noirs d'Afrique du Sud qui prennent le parti et qui, de ce point de vue-là, se posent la question, mais quelle est l'urgence ? L'urgence, est-ce que c'est le fascisme ? Ben oui, on le voit avec les grands coloniaux et ce qu'ils appliquent, etc. Ou est-ce que c'est l'indépendance et toutes les logiques que Serge évoquait auparavant, c'est-à-dire on met entre parenthèses la logique de l'indépendance. Mais tout ça, c'est des graines, qui ont été semées. Ces gens-là, ils étaient déjà en 1927 au grand congrès anti-impérialiste qui a lieu à Bruxelles. Et on les retrouvera un peu plus tard, en 1955, si j'ai bonne mémoire, oui, à Bandung. Et ils le diront. Et à Bandung, leur première déclaration, c'est de dire
Souvenez-vous ce qu'on faisait en 27, ce qu'on venait dans les années 30, etc. Bah, oui, ça, ce qui nous amène à comprendre aussi la complexité des temporalités, c'est-à-dire de nos chronologies qui ne sont pas toujours emboîtées les unes aux autres et de penser, en fin de compte, des temps décalés. Et ça, pour nous, c'est important comme historien, c'est de se dire, bah, oui, ça participe de cela. Et dans les circulations, et j'arrête là, hein, parce que mais c'était par rapport à ta question, histoire connectée, de circulation, on a dit là, les délégués de l'international communiste, mais il n'y a pas que. Le geste du poing levé, hein, antifasciste, ce sont les antinazis sociodémocrates qui le font passer. Gilles Vergnon l'avait très bien montré il y a quelques années. C'est-à-dire, comment on va se réapproprier à une époque où on n'a pas Internet, où on n'a pas notre téléphone portable, où on n'a pas tout ce que vous voulez comme réseaux sociaux, eh bien, ça circule. C'est-à-dire que quelque part, il y a des passeurs. Ben, qui sont ces passeurs ? Ce sont les militants internationaux, ce sont les militants internationalistes. Ce sont ceux qui permettent effectivement de comprendre ce qui se passe. Ce sont aussi des journalistes. Moi, je n'oublie pas qu'il y a une journaliste que l'on connaît, Marie-Paul Vaillant-Couturier, qui en 1934 écrit sur Dachau, qui écrit sur les camps de concentration, qui fait connaître au public français ses premiers camps. C'est-à-dire que l'information, elle circule. Et on avait une presse beaucoup plus libre qu'aujourd'hui et beaucoup plus importante qu'aujourd'hui.
Cela dit, c'est pas dur.
C'est pas dur, il n'y a aucun souci, je suis d'accord avec toi. Mais ça participe aussi de cette prise de connaissance. Pareil pour l'occupation d'usines. La plupart des gens, ils n'avaient pas fait encore l'occupation d'usine. Il y avait des événements sporadiques, mais c'est en lisant la presse, en regardant ce qui se fait, que ça devient un registre d'action que tout le monde s'approprie. C'est-à-dire que, effectivement, les choses arrivent à circuler. Et puis, il y a les réfugiés, les exilés. N'oublions jamais le rôle des réfugiés antifascistes italiens, des réfugiés anti-nazis. Ça participe de tout ça. Les frères Mann, par exemple, qui fuient, sont traduits en français par Madame Bianchi, qui était maître assistant à Dijon, en allemand, du comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Donc, il y a le rôle dans la cité des uns et des autres. Et puis, et j'en arrête là, la main-d'œuvre immigrée, la MOI, qui devient MOI en 1932, parce qu'avant, elle s'appelait la main-d'œuvre étrangère. Et le Parti communiste et la CGTU, à ce moment-là, disent « on ne peut pas reprendre le terme d'étranger, parce que c'est celui de la xénophobie, de l'extrême droite, etc. » Donc, on va dire « immigré ». Et on l'appelle MOI, ce qui donnera plus tard, on le sait très bien,
les FTP MOI.
Mais sauf que la MOI, eh bien, c'est les Italiens, c'est les Espagnols, enfin, c'est les Arméniens, c'est les Juifs d'Europe centrale, orientale, etc., etc. Eux, le Front populaire, mais ils sont heureux dedans et ils sont en phase, et en particulier c'est eux qui disent faut faire les brigades internationales, même si dans un premier temps Marty leur dit qu'il faut pas. Ils vont voir Thorez et ça le permet, parce que pour eux c'est poursuivre le combat, c'est aller jusqu'au bout. Voilà des éléments de circulation. Il y en a plein d'autres. On ne peut pas tout donner, je vous invite à lire.
Mais voilà. C'est vrai qu'à la fin, dans les derniers chapitres, il y a un chapitre sur les symboles. Ouais. Alors certains sont restés assez franco-français, comme l'églantine. Ouais. Mais moi, j'adore quand, parce que chaque 1er mai, j'essaie d'expliquer à tout le monde qu'il ne faut pas prendre du muguet, mais il faut prendre l'églantine. Mais il y a aussi le point, et de fait... alors peut-être je l'ai su, je l'avais oublié, mais j'avais oublié que ça venait des antifascistes allemands et qu'au début c'était comme ça, puis comme ça, bien, et puis comme ça. Puis il y a les trois flèches aussi.
Les trois flèches.
Qu'on retrouve encore aujourd'hui.
Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont les passeurs en quelque sorte de ces symboles. Et puis après, on ne sait plus ce que ça veut dire. Mais ça veut bien dire qu'ils ont aussi une fonction, on va dire, de clin d'œil à l'histoire, quoi.
Et donc, moi, je pourrais vous écouter pendant des heures, mais il faut quand même avancer un petit peu. Donc, Chine, Chili. Alors, il y a aussi un chapitre, je les ai tous aimés, mais voilà, il y en a que je cite, qui est le chapitre de Romain Robinet sur le Mexique, le Mexique de Cárdenas. Et il est intéressant puisqu'il mène des politiques très à gauche, des réformes sociales. Robin Robinet dit que le Mexique devient le ténor antifasciste du Concert des Nations. Mais pourtant, ce n'est pas exactement un front populaire.
Alors, ce n'est pas un front populaire au sens où on l'entend de manière électorale en France, etc. Mais c'en est un, parce que le gouvernement radical, ils étaient radicaux, est soutenu.
Pas radical au sens où longtemps en France.
Non, pas.
Ouais.
Centriste,
c'est compliqué pour
le centre gauche, ouais. Si on veut, de centre gauche. Je vais dire comme ça.
Est soutenu par le mouvement ouvrier et surtout qu'il arrive à créer un parti, je crois, qui a 5 millions d'adhérents. C'est énorme à l'échelle du Mexique. Donc ça veut dire que quelque part, il y a aussi ce soutien populaire et que ils prennent non seulement, et ça s'inscrit dans l'histoire propre du Mexique, hein, une révolution ancienne depuis la fin du 19e, donc dans le temps long de l'émancipation mexicaine. Et ce moment Front populaire surgit, en fin de compte, comme le disait Serge tout à l'heure, dans un moment de crise exaspérée du capitalisme mondial, qui touche de plein fouet le Mexique. On évoquait tout à l'heure le Brésil, le café qui est brûlé, etc. Enfin, bon, revenons, excusez-moi.
Qui est brûlé dans les locomotives.
Dans les locomotives, hein.
Ça,
voilà.
Mais c'est dingue, ce
mais
truc.
Bien sûr. Et revenons donc au Mexique. C'est une expérience, effectivement, d'un gouvernement. Alors, on va dire, c'est des institutions bourgeoises. On peut dire tout ce qu'on veut, mais qui met en place des réformes. Et ces réformes, elles s'inscrivent dans l'esprit, dans le moment Front populaire. Alors, bien sûr, c'est peut-être aussi ça qu'on a peut-être fait. On ne tord pas le bras, hein. C'est pas notre volonté, mais comment c'est... Aujourd'hui, on aime bien dire c'est l'ère du temps, enfin, etc. etc. Hein. Et bien, dans cette logique-là, on peut voir quand même certains s'approprient, reprennent des choses qui ont été faites ailleurs. Alors, regardons ce qui... Alors, je quitte le Mexique et je vais au Chili. 38-41, qu'est-ce qui est mis en avant? Ce qui est mis en avant, c'est une politique de développement de l'éducation. L'éducation, c'est fondamental, l'alphabétisation, l'éducation.
Alors, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire.
Voilà. La deuxième chose, c'était pour ça que je te le dis, la deuxième chose, c'est aussi une volonté de modernisation de l'agriculture avec des logiques de réforme agraire. Mais tout ça, c'était des questions sociales urgentes et auxquelles il fallait répondre. Et parce qu'il y avait cette unité, parce qu'il y avait ce mouvement derrière, ça a été mis en avant. Alors, je ne dis pas que ça a toujours fonctionné. Mon propos, ce n'est pas de dire ça. Mais au moins, il y a cette circulation et ces enjeux. Voilà.
Ce qu'il y a de commun derrière toute cette diversité qu'on a pointée et qu'il faut conserver, c'est cette idée que le Front populaire, c'est à la fois la défense de la démocratie, des libertés démocratiques contre le fascisme, mais c'est aussi l'idée de la démocratie sociale. C'est-à-dire une autre république, la république sociale. C'est pas par hasard que la référence à la Commune de Paris est si puissante au moment du Front populaire. Et c'est cette idée qu'il n'y a pas de démocratie véritable sans loi sociale. Et dans les pays qu'on évoque de l'Amérique latine, cette idée de la démocratie sociale est complètement neuve. Elle est très très forte, y compris dans la politique du deuxième mandat de Roosevelt. Cette idée de la démocratie sociale est fondamentale. Et les grèves qui sont les grèves avec occupation d'usines, qu'on appelle aux États-Unis les grèves avec sit-in, où s'inspire, on est en 37, s'inspire de ce qui s'est passé en France, et la démarche de Roosevelt dans les zones paysannes contre et aussi une démarche qui est aussi contre les désastres écologiques qui sont si importants aux États-Unis dès cette époque.
C'est
une résonance qui est proche de celle du Front populaire, sans qu'on ait la volonté de plaquer tout, quoi. Mais moi, je pense que l'antifascisme décliné avec la démocratie sociale, la défense ou la promotion de la démocratie sociale ou de république sociale, c'est quelque chose qui est profondément commun. Aujourd'hui, parler de l'antifascisme sans parler de la démocratie sociale ou d'une république sociale, c'est passer à côté de ce qu'on pourrait appeler le message du Front populaire.
Ça, je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, il y avait des fascistes au Mexique, j'ai appris, qui s'appelaient les chemises dorées.
Ouais.
C'est... Et comme je rebondis sur ce que tu viens de dire, Serge, sur les grèves, et de fait, le chapitre de Théo Bernard sur les grèves, il est vraiment super.
Hein. Il est super, et puis surtout, c'est que Théo Bernard, il vient de soutenir une thèse remarquable et remarquée sur les grèves.
Eh oui.
Et de ce point de vue-là, il l'inscrit, et il rompt peut-être aussi une domination historiographique que l'on avait en France, et je trouve que c'est courageux de s'en
prendre véritablement aux grands et aux figures tutélaires. Et il propose quelque chose de neuf parce qu'il est allé, alors là, oui, effectivement, aux archives. Il a travaillé sur les archives départementales. Il prend différents cas. Et puis, surtout, par rapport à la thèse, là, il élargit. Il parle de la Belgique. Il parle des États-Unis. Donc, il a une
mais
vision.
Mais il parle même de l'Inde.
Il parle même
il
de l'Inde.
Il parle des grèves en Inde.
Bah oui, il ouvre en Inde. Ouais. C'est-à-dire, il a
avec
une vision.
Avec ses grèves gigantesques.
Gigantesques. Bah, bien sûr. C'est à l'échelle du pays aussi. Hein. Oui. Il faut toujours regarder les enjeux démographiques qui sont derrière et sociaux qui sont derrière. Mais ça nous permet d'avoir une, voilà, un autre regard et pas être enchâssé dans une histoire nationale. Parce qu'en gros, ce que l'on a voulu aussi par rapport à... Tu nous disais pourquoi et c'est ce côté neuf, etc. C'est pas neuf, mais on s'est dit, c'est vrai, le Front Populaire, on connaît, ça fait plusieurs livres qu'on fait, on sait que c'est un anniversaire, donc il y aura une commande, il y aura des choses nouvelles... Il y a d'autres livres qui apparaissent, etc. Et c'est très bien, et c'est tant mieux. Il le faut pour le débat historiographique. Bien sûr. Il n'y a pas de monopole. Enfin, il faut arrêter à ces visions-là, etc. Mais on s'est dit, sur quoi, sur quelle chose neuve on pourrait proposer quelque chose. Et c'est ça un peu l'idée qu'on a eue. C'est de demander à des spécialistes internationaux, parce qu'il n'y a pas que des Français
hein, non,
pas du tout. Dans l'ouvrage. Ouais. Bon, d'autres n'ont pas pu répondre. Bon, c'est dommage, etc. On devait être un peu plus, mais... Déjà, c'est beaucoup, il fait 800 pages, et merci à Libertalia, ils ont fait un effort super parce que la mise en page est très belle, et puis à un prix abordable, hein, je suis désolé de le dire comme ça, mais il y a une logique aussi d'accès démocratique au livre qui est marquée par cette maison d'édition. Au-delà de ça, l'idée c'était de dire bah, comment, en fin de compte, penser, tu l'as dit, cet événement monde, comment voir l'écho, et puis aussi le rejet, hein, faut jamais voir... Il faut regarder le combat qu'il y a eu contre ce moment Front Populaire et la haine que ça a suscité. La haine, nous, on le sait en France, c'est Vichy. C'est l'État français. C'est la
revanche. C'est les deux maisons, là.
C'est les deux maisons. Ouais. Mais face aux métèques, face aux étrangers, face aux juifs, face aux francs-maçons, face aux communistes, c'est tout ça. Et donc, de remettre la France au travail, même si c'est déjà dit en 1938, c'est largement... repris en 40, 41, 42, au moment de la Révolution nationale. Et c'est comment on va inventer aussi des mythes sur bah, « ils étaient pacifistes », parce que ça aussi, c'est ce qui taraude, c'est la guerre et la paix. Ils étaient pacifistes et ils n'ont pas réarmé, ce qui est totalement faux. Mais nous, on n'est pas rentré dans cette, on va dire, une historiographie enchâssée dans le national, mais essayer de regarder ce qui circulait, ce qui permettait d'avoir...
Mais c'est ça qui fait que c'est absolument foisonnant et passionnant, hein. J'ai découvert un truc dans le bouquin, dans le chapitre de Théo Bernard, c'est quand les vendeuses de Woolworth à New York accueillent les flics en nuisette, en se disant qu'ils vont tellement être choqués de les voir comme ça qu'ils vont ils vont se barrer.
Ils vont pas taper quoi.
Voilà, ils vont pas taper. Mais il y a plein, enfin vraiment il y a plein de trucs. Alors d'ailleurs, en restant dans les grèves, il y a un autre aspect qui est d'ailleurs aussi dans le documentaire de France TV et qu'on retrouve là, que j'ai adoré, c'est l'approche. Alors on dit au ras du sol, je veux dire au ras des ateliers occupés et les questions logistiques. Et il y a une super contribution de Morgan Poggioli.
Oui, Morgan.
Hein ?
Morgan.
Morgan, pardon.
Oui, non, pas de souci.
Pardon. Morgan Poggioli sur manger dans l'usine occupée où j'ai appris que Gabriel Péri, dont on parlait tout à l'heure, député maire communiste d'Argenteuil, avait fait apporter des huîtres aux grévistes de Kléber Colombe. Bon, c'était un peu exceptionnel. Mais alors, cette dimension, c'est vrai, mais comment on bouffait dans les usines occupées ? C'est génial, ça.
Oui. Disons, moi, quand j'ai interviewé ceux qui avaient occupé les usines, mais 50 ans après, ça continuait de les marquer profondément.
Mais c'est normal. Nos propres mouvements, on se souvient de ces aspects-là aussi. Quoi.
Et pourquoi ? Parce que, d'une certaine façon, c'est, manger dans l'usine, c'était, en quelque sorte... concrètement de la solidarité. C'est-à-dire que c'était à la fois les familles, mais surtout les commerçants, toute une série d'institutions qui venaient apporter aux grévistes de quoi vivre et survivre. Et en quelque sorte, c'était une manière très concrète de soutenir les grévistes dans leur occupation. De même que des artistes venaient présenter des spectacles dans les usines, que des sportifs organisaient des manifestations sportives dans les usines.
Dans le film, on voit une course de vélo.
Voilà, on voit une course de vélo. Et il y a, vous savez, la première organisation où il y a eu l'unité ouvrière qui a été réalisée, c'est la FSGT, la Fédération des sports de gymnastique et du travail, entre socialistes et communistes dès 1934. Et les clubs ouvriers de sport, comme les clubs ouvriers de culturels ou les maisons de la culture, ont joué un rôle très, très, très fort de soutien aux ouvriers. D'une certaine manière, c'était aussi pour les ouvriers d'accéder à une visibilité qu'ils n'avaient pas collective, quoi. Et ça, pour ça, le fait de prendre les repas ensemble, de partager la solidarité à travers l'alimentation,
être un compagnon.
Voilà, c'est exactement, exactement. Et il faut dire que Morgan a travaillé sur un projet qui était un projet de recherche, ouais, d'ailleurs qu'on avait au laboratoire d'histoire.
Qui avait été mené par Xavier Vignat, Thomas Boucher et les collègues.
Justement,
sur manger au travail.
Manger au travail.
Oui, voilà. Moi je me souviens parce que je m'en étais servi quand c'était le. Il y a Donne la papate qui dit sur le chat. Il y a toujours des pseudos.
C'est très bien.
Et qui dit, qui fait la comparaison tout à fait juste avec les gens qui venaient apporter à manger au Gilet jaune sur les ronds-points. Enfin,
c'est ça. Exactement.
Alors je vais un tout petit peu accéléré.
Oui,
parce
pas
que,
de souci, pardon.
Donc, il y a un moment où je vais un peu dire ce qu'il y a dans le bouquin, mais sans tout de suite vous donner la parole, parce qu'il y a deux choses sur lesquelles je voudrais vous redonner la parole. Ce sur quoi je voudrais un peu insister, puis pour donner à celles et ceux qui nous écoutent ou nous écouteront vraiment l'envie d'aller voir plus, c'est que dans le documentaire comme dans le livre, il y a une dimension qui n'est pas toujours très présente ou qui l'était moins avant dans les livres sur le Front populaire, c'est la dimension rurale, voire paysanne. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Ça a d'ailleurs du sens quand on ouvre à la perspective mondiale, parce que par exemple en Chine, donc ça, c'est vraiment un plus. Hein. Et ça permet de sortir d'une histoire un peu trop ouvrière. Alors, je ne dis pas que c'est mal l'histoire ouvrière, loin de moi cette idée. Mais voilà, c'est bien aussi d'aller voir, d'avoir les autres. Comme on l'a déjà dit, donc là, je résume un peu ce que vous avez dit, mais ce qui est très important dans votre livre aussi, c'est qu'on voit tous ceux qui refusent le Front populaire, soit qui juste, sont à l'écart, soit qui vraiment le refusent. Donc, je renvoie aux contributions de Nicolas Patin, de Johan Chapoutot, de Jean Dumas Ducamp sur l'Angleterre et les pays scandinaves. Et tu l'as dit, donc c'est pour ça que je ne repose pas la question, mais pourquoi ces social-démocraties n'ont pas accepté les Fronts populaires et sont restées dans une association ni Moscou ni Hitler, quoi. Oui, non, tu voulais dire un truc.
Non,
voilà.
Vous
relevez aussi et soulevez toutes les contradictions, tous les renoncements, tous les oublis, tous les rendez-vous manqués, tous les laissés pour compte, parce que voilà, votre objectif n'est pas de faire une hagiographie des fronts populaires. La question coloniale, on en a parlé beaucoup, donc l'anticolonialisme. La question des travailleurs étrangers, parce que tu dis qu'ils ont été intégrés, mais en même temps, c'est une chercheuse, je me souviens plus de son nom, mais c'était dans un autre ouvrage, j'ai vu qu'il disait que c'était un rendez-vous manqué aussi avec les...
Oui, rendez-vous manqué, parce qu'effectivement, il y a encore des renvois, mais pas si forts qu'en 1935. Il n'y a pas les convois de Polonais comme le gouvernement l'avait fait, etc. Il y a encore des renvois, oui, bien sûr, mais pas à cette échelle.
Ouais.
Mais c'est encore présent.
Ouais, ouais. Et puis le rendez-vous manqué sur la question des femmes, ça c'est la contribution de Ludivine Bantini. Donc voilà, ça c'est très présent. Je voulais d'abord vous poser une question triste et après, comme je ne veux pas rester sur un truc triste, on terminera sur un truc plus heureux. Parce que je déteste terminer sur les trucs tristes, mais en même temps, voilà, je suis obligée de vous demander qu'est-ce qui fait échouer les fronts populaires ? Ah, c'est dur, hein.
Qu'est-ce qui fait échouer les fronts populaires ? C'est le rapport à la guerre. C'est le rapport à la paix. C'est-à-dire que n'oublions pas qu'on est 20 ans après 1916 Verdun. N'oublions pas qu'il y a encore un moment où l'entre-deux-guerres est marqué. Alors, on va dire à l'échelle européenne, là encore, européocentré, mais pas seulement, parce qu'on a fait venir quand même des troupes coloniales et des troupes d'un peu partout pour faire cette guerre mondiale. Les grandes manifestations populaires de l'entre-deux-guerres, et ça, je reprends l'idée à Daniel Tartakovsky, étaient des manifestations de deuil, de tristesse. Il ne faut jamais perdre de vue, regarder les monuments aux morts, regarder tout ce qui se joue. Et le Front populaire a réouvert une parenthèse enchantée, a réouvert un moment, alors je dis échappée belle autrefois, mais en tout cas, le moment de joie, et permet de retrouver ça. Sauf que ce moment de joie, il est pris dans l'étau de « est-ce qu'on est pacifiste ?» ou est-ce qu'on est belliciste ? Et là, c'est là-dessus que l'antifascisme va se briser, va faire apparaître ses contradictions. Contradictions face à la guerre d'Espagne, non-intervention, bien sûr, du gouvernement de Léon Blum. Alors on va dire, oui, il y a les brigades internationales, mais ce n'est pas à la hauteur.
Attention, c'est à la hauteur pour tous ceux qui ont perdu leur vie et pour tout ce qui a été fait. Et c'est formidable ce qui a été fait de ce côté-là. Mais du côté, je dirais, des alliances politiques, le gros danger, ce que l'on n'arrive pas à dépasser, c'est la logique de la guerre dans les fascismes. J'ai dit l'Éthiopie tout à l'heure, la remilitarisation de l'Allemagne, la logique des appétits d'Hitler qui veut détricoter, bien sûr, le traité de Versailles, etc. Donc, c'est ces logiques-là qui amènent, en fin de compte, à cet échec global. Mais en France, ce qu'il faut bien regarder aussi quand on le reprend localement, c'est tout simplement le rôle pivot du Parti radical, le vieux terme qu'employait Serge Bersten et qui était juste. Il était pivot, il était au centre de la vie politique sous la Troisième République, parce que la Troisième République, c'était une autre République par rapport à celle d'aujourd'hui. C'était les parlementaires, c'était les députés, c'était au cœur, et c'est pour ça que s'en prendre le 6 février 34 au Palais Bourbon, c'est perçu comme un coup de force fasciste. C'en était peut-être pas un, mais c'est effectivement perçu comme tel, et c'est juste de le percevoir comme cela, parce que c'était une vraie démocratie parlementaire. Eh bien, le Parti radical qui a eu peur des grèves.
Ouais, moi, quand j'ai vu.
Bascule, quoi.
Voilà. À la fin du documentaire, j'ai envoyé un message à un copain qui l'avait vu. J'avais dit les radicaux, traîtres parmi les traîtres.
Bah, traîtres parmi les traîtres, oui, ça participe de cette histoire-là.
Alors, ce qui, dans ce qu'on pourrait appeler ce moment triste de la dislocation, qui est factuellement, en quelque sorte, devenu le Front populaire qui a fini d'exister, c'est novembre 38. C'est la répression de la grande grève, de protestations, mais c'est d'une CGT qui est elle-même un peu divisée par la question de la guerre, notamment des accords de Munich, et d'autre part, la scène qui se joue à la Chambre des députés avec une partie des forces politiques qui étaient dans l'alliance de Front populaire qui, en quelque sorte, font défection au profit d'une politique incarnée par Daladier, dirigeant de radical, qui incarne une politique non pas encore complètement de revanche, mais de prise de distance avec le Front populaire. Ça nous amène à réfléchir au fait que le Front populaire, c'est une alliance, et une alliance qui comportait à la fois une grande nouveauté et des fragilités. La fragilité, c'était l'ouverture vers le Parti radical, qui n'a pas été et qui était lui-même traversé par des contradictions entre une base plutôt républicaine et ayant la fibre sociale, une direction qui était nationaliste, colonialiste et prêt à toutes les alliances, à beaucoup d'alliances
et
avec
sexiste,
la droite.
Parce que ça tient
et c'est
à cause
et sexiste.
De,
ce sont les radicaux qui ont empêché, le droit de vote des femmes. Mais il y a une deuxième raison de la dislocation, je pense, c'est une certaine timidité à mettre en œuvre tout le programme du Front populaire. Dans le domaine social, souvent, avec les grèves, le mouvement a poussé au-delà même de ce qu'était le programme du Front populaire. Dans le domaine économique, la réaction patronale et financière, la fuite des capitaux en Suisse, les dévaluations successives, la faiblesse des nationalisations, même des usines d'armement, qui est quand même pas rien, hein, si on réfléchit même à aujourd'hui. Mais d'autre part, la difficulté de mettre en œuvre les réformes sociales promises et notamment la retraite. Ça a joué un peu dans une sorte de démobilisation, même si le monde ouvrier continue de se battre, parfois le dos au mur. Au niveau syndical, le mouvement syndical s'est renforcé, mais a de la peine. Au début 38, avec les effets de la situation internationale. Je ne voudrais pas exonérer complètement les communistes de cette question de la dislocation. Parce que le Parti communiste a été vraiment fondamental dans ce qu'on pourrait appeler la promotion du mot d'ordre. L'invention du mot d'ordre, il vient des communistes. Dans les premières années, les communistes jouent un rôle de mobilisation, ça se voit aux élections. Ils gagnent énormément, c'est les seuls qui gagnent à gauche. Mais ensuite, le fait qu'ils aient pas participé au gouvernement, le gouvernement, par rapport au mouvement social, est complètement déporté à droite. Ouais. Et deuxièmement, l'international communiste, qui a accepté, qui a même généralisé le mot d'ordre, ensuite, elle reste en permanence réticente devant toutes les formes d'alliances patriotiques nationales dans lesquelles les communistes participeraient. Je donnerai un seul exemple. En 1938, Maurice Thorez, on le sait par les archives et les télégrammes de l'Internationale, envoie un télégramme pour demander la possibilité de participer à un grand gouvernement avec Léon Blum contre la politique allemande, le nazisme, une politique de réaction patriotique. Il dit même des communistes à Paul Reynaud. Il va très loin. Arrive la décision de l'International, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. D'ailleurs, ça a des effets sur la période ultérieure dans la résistance. Dans la résistance, justement, ces contradictions et ces limites vont sauter. Mais en 38, il y a des phénomènes de mobilisation insuffisante aussi du mouvement ouvrier qui est divisé, avec un courant social-démocrate anticommuniste et pacifiste intégral qui traverse la CGT. Et qui aussi affaiblit la réaction syndicale.
Ouais. Et Serge a entièrement raison. Juste un mot par rapport à ça, c'est-à-dire que ça permet de voir aussi des enjeux contradictoires entre la diplomatie soviétique, les enjeux de la stratégie du Comintern et la tactique du moment, parce que en plus à cette époque, c'est le début des grands procès. Le Front populaire, des grands procès staliniens. Et donc, on est au cœur de contradictions. Voilà. Et c'est ça le paradoxe, des contradictions que même Dimitrov avait soulevées, parce qu'on le prend à deux fois, on le prend dans l'introduction, on le prend dans la conclusion. On avait envie de le citer deux fois parce qu'il dit qu'il n'y a pas de réponse universelle. Ouais. Et ça, je trouve ça très intéressant dans cette vision des choses. C'est-à-dire que c'est chaque pays ou chaque peuple, ou chaque classe ouvrière, peu importe comment on regarde les choses, qui va s'emparer du Front populaire, d'une riposte antifasciste et démocratie sociale, mais en fonction de comment, dans quel degré de développement. Tu évoquais les paysans, c'est fondamental. On ne peut pas lire le Front populaire sans les paysans.
Non, ouais.
Sauf que pendant longtemps, on a eu une lecture simplement ouvrière, je ne dirais pas ouvriériste, mais tout simplement parce que le prolétariat rural, il a disparu. Parce que pareil, il a été invisibilisé. Qui connaît les tâcherons dans la vigne? Qui connaît les lavandières? Qui connaît les moissonneurs, ceux qui rabassaient les betteraves en région parisienne, etc. Et dans le Nord, on n'a plus rien. Et on a quelques clichés, on a quelques photos, on a quelques éléments. Mais voilà, c'est le problème de qui a constitué la mémoire. La CGT, elle a su garder cette mémoire. N'oublions pas qu'en 1956, pour les 20 ans du Front populaire, en pleine guerre froide, je ne reviens pas sur les enjeux, etc. Le PCF en appelle à un nouveau Front populaire. Bien dans la presse régionale, qui est très forte encore du PC, il a plus de 20% dans le pays. On a plein de photos des grèves qui ressortent. Celles que souvent on retravaille dessus, parce que c'est celles qui avaient été reproduites à ce moment-là et qu'on avait perdu les clichés des années 30.
Mais c'est pour ça que penser le phénomène triste, entre guillemets, mais vraiment triste, moi je dirais parfois tragique. De la dislocation, c'est intéressant parce que ça pousse à réfléchir au fait que quand il y a une alliance et qu'il y a des compromis qui sont passés par définition dans cette alliance, il faut que ces compromis, cette alliance soient suffisamment solides pour pouvoir tenir plus que l'espace d'une victoire électorale ou d'un court moment. Et ça, ça peut faire réfléchir au-delà de 1936.
Bon, donc on ne va pas terminer sur une note tragique parce que je trouve qu'on s'en prend tellement plein la gueule en ce moment. Alors, une note positive. Et de fait, je vous assure, moi, quand j'ai vu le documentaire, mais j'avais juste envie, alors il ne m'en faut pas beaucoup, mais juste me rebattre en me disant, mais il faut redonner ça, et ça, tous émancipation, tout ça. Donc, je vais juste rapidement, parce que là, vraiment, l'heure avance, évoquer la question de la culture, parce que j'ai adoré dans le docu, dans le bouquin. Alors, dans le docu, les images des congés payés, ça marche. Enfin, il y a quand même un truc, une sensation de bonheur pur qui est tellement belle, quoi. Les photos des auberges de jeunesse avec les merveilleuses photos donc, de Pierre Jamais. Et j'en profite pour signaler à celles et ceux qui nous écoutent qu'en ce moment, aux Amis Rouges, qui est une galerie dans le 5e, il y a une super exposition qui s'appelle « Il y a de la joie » avec les photos de Jamais. Franchement, allez-y, c'est dément, vous l'avez vu ?
Oui, bah, je l'ai vue parce qu'elle était exposée à l'UMA,
ouais.
À l'UMA, au siège du PC, pardon, pour le 90e anniversaire.
Ouais, mais, c'est... mais là, elle est aux Amis Rouges.
Ouais, elle est aux Amis Rouges.
Ouais. Ouais, ouais, vraiment, ça vaut le coup. Donc, voilà. Et j'ai découvert, je ne connaissais pas, bon, après, à nouveau, je ne suis pas spécialiste de la question, mais toute la question des musées, hein, ouais, la façon dont les musées ont été revivifiés par le Front Populaire, la naissance d'une poétique culturelle. Bon, Ori, là, je connaissais quand même. L'exposition universelle de 37,
oui.
Où est exposée Guernica, l'art mural. Moi, j'adore l'art mural. Donc, d'ailleurs, après, je vous demanderai s'il y a un bouquin sur l'art mural, parce que ça m'intéresse. Et alors, le festival antifasciste de Cannes. Mmh. On l'oublie souvent, mais oui. Cannes, c'est pour réagir à Venise Mussolini.
Oui. C'est Jean Zay qui porte ça. Voilà. Olivier Loub, ses travaux. Et on voulait qu'il soit présent dans l'ouvrage, parce que ça nous permettait de se dire, mais le cinéma, qui
mais
est quand
oui.
même l'art qui explose dans ces années 30, et en plus, il passe du muet au parlant, donc c'est fondamental, etc. Mais face aux fascistes, face à Venise, etc., que faire ? Eh bien, le Festival de Cannes. Bon, il n'ouvre pas, on sait bien
oui,
pourquoi.
Oui, parce qu'après,
mais...
ça va être la... Et d'ailleurs, c'est la bataille du rail qui emporte le premier, la première palme d'or.
Voilà,
c'est
oui,
super
voilà,
beau, quoi.
C'est super beau, et c'est l'aboutissement. Mais c'est ce que disait Serge tout à l'heure, en fin de compte. Il y a des graines qui ont été semées, il y a des choses qui, qui seront faites quelques années après, parce que 36-44, c'est rien. 44-47, c'est le moment du retour à la République, une République libérale, mais aussi sociale, avec le programme du CNR. Tout ce qui ne s'est pas fait en 36-38, alors je ne vais pas dire tout, la totalité, mais une bonne partie, se fait à ce moment-là. Et ça a été semé. Alors, ça ne veut pas dire que tout vient du Front Populaire. Attention, le propos, ce n'est pas de dire ça. Mais c'est qu'il faut bien prendre en considération ces contextes emboîtés, ces moments emboîtés. Voilà.
La séquence du Front Populaire, c'est une séquence qui s'inscrit dans une bataille sociale, un mouvement qui est presque celui d'une décennie, de 36 à 45 ou à 46, qui est celui justement en France de retrouver la République à condition qu'elle soit sociale. Et alors la question évidemment peut être prise d'un autre côté, le mouvement ouvrier communiste et socialiste a fait du Front Populaire et des idées du Front Populaire une stratégie durable. Pour une partie du mouvement révolutionnaire, par ailleurs, ou du mouvement communiste stalinien à l'échelle internationale, pour l'URSS, c'est ce que je dis dans le livre, en prenant en quelque sorte quand même pas mal d'indications, le Front Populaire, ça avait été une tactique plus qu'une stratégie. Mais en France... l'enracinement de l'expérience du Front Populaire, le partage de cette communauté de vues, d'actions et de souvenirs a fait que le Front Populaire, et ça explique aussi pourquoi aujourd'hui ça dit encore quelque chose, ça s'est en quelque sorte inscrit dans une histoire sociale profonde.
Ouais. Dans une mémoire collective profonde. Alors, puisque tu as été super sympa à présenter le documentaire, je voulais simplement dire que les deux réalisateurs, Fabien Béziat et Hugues Nancy, qu'on a eu au téléphone, les pauvres, ils se sont pris une douche froide de la part de France Télévisions parce qu'il n'y a eu que 1 250 000 téléspectateurs.
Mais c'est déjà pas mal, non ?
C'est énorme. Mais sauf que pour la chaîne, ils attendaient beaucoup plus, enfin, tu vois, etc. Alors, si tous, vous pouvez faire un acte militant camarade, vous allez sur France Télévisions et vous regardez. On fait monter les audiences par la logique, puisque c'est sur la plateforme maintenant. On peut le regarder, le faire partager, le montrer à tous.
Ah, moi, j'ai dit à tout le monde que c'était dément, ce truc.
Parce qu'ils ont fait quand même un truc remarquable. Et ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que dans des logiques qui sont purement comptables et bon, voilà, financières, pour ne pas dire autre chose, bah oui, ils ne font pas autant que la finale du football. Bah oui, d'accord. Bon, voilà.
Mais j'ai regardé les deux, hein.
On peut regarder les deux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mon propos était pas... Il n'y avait pas de mépris. Mais voilà, on peut faire un petit effort et aller, sans oublier, bien sûr, d'aller lire les ouvrages.
Et moi, je voulais absolument terminer là par la culture. Par la culture, parce que bon, je ne vous apprends pas qu'en ce moment, elle est vraiment attaquée. Et en fait, je voulais un peu profiter de l'occasion pour apprendre à celles et ceux qui nous écoutent, à vous aussi peut-être, qu'il y a en ce moment des municipalités qui annulent purement et simplement les programmations théâtrales de la saison prochaine. Cette semaine, il y a eu la ville de Saint-Loup qui a annulé, mais La bonne nouvelle du jour, yes, c'est que la mobilisation, pétition, etc. a porté et ce matin, une lettre a été envoyée par le maire et il renonce à cette annulation. Donc, la lutte paie des fois. Résultat, il faut se battre pour Vanves, il faut se battre pour Calais, il faut se battre, il y en a une autre, j'ai des problèmes avec les noms propres, mais voilà, c'est très important de défendre le spectacle public vivant. Normalement, alors, donc j'avais demandé à Eurial si elle pouvait mettre en lien le lien de la pétition pour je ne sais pas si on dit Loup ou Loubès, hein, Saint-Loubès.
Olivier. Hein. Non, Saint-Loubès, oui. Pardon,
mais pas Olivier, ah, non, la ville, Saint-Loubès ou Saint-Loub. Mais voilà, le maire a reculé. Alors, est-ce que, avant qu'on termine, vous avez l'impression qu'il y a des choses dont vous aviez envie de parler et je ne vous ai pas posé les questions, un truc que vous aimeriez vraiment dire ou résumer pour que les trucs importants pour vous restent, enfin, voilà. Est-ce que vous avez une petite frustration ?
Non, on n'a pas de frustration avec toi parce que c'est très bien, c'est calme, c'est préparé, tu as lu l'ouvrage. Peut-être qu'on pourrait dire, il y a telle ou telle chose, on n'a pas choisi le focus, on n'a pas choisi telle...
J'ai pas pu tout choisir.
Il y a une quarantaine de personnes, enfin, il y a presque une quarantaine de personnes. Il y a des choses sur le sport qui sont intéressantes. Il y a les enjeux sur les internationales, il y a les enjeux... Bref, il y a la SDN aussi, le poids des relations internationales dans le cadre de la SDN. Souvent, on a une vision téléologique, en fin de compte, ça ne marche pas. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ont réussi. Et ce travail qui a été fait par Jean-Michel Gueux est super intéressant. Et il nous permet aussi de comprendre la géopolitique internationale et l'ordre international à l'époque. Voilà, c'est vrai, ça foisonne, il y a beaucoup de choses. L'idée, c'était de proposer des lectures croisées, des lectures différenciées et pas simplement en chasser dans le roman national, si je... peut le dire comme ça.
Oui, puis si on a envie d'aller plus loin sur un chapitre, à la fin, il y a une bibliographie, donc
toujours.
On peut aller...
Voilà. Moi, je suis particulièrement satisfait de la possibilité d'échanger comme on l'a fait aujourd'hui. Et donc, je n'ai rien à ajouter aux propos de Jean, avec lequel je suis évidemment très raccord.
Ah ouais.
Voilà.
Vous êtes choupi.
Hein, écoute, c'est
moi,
bien.
Je vous aime beaucoup. Et alors... Moi, je voulais rajouter un truc, que cet été, alors là, en fait, j'ai besoin de toi, Nayan, sur le jeu, sortira un jeu alors, c'est un jeu qui est fait par une société qui fait des jeux, ont déjà fait des jeux que les gens du poste connaîtront peut-être. Hein, c'est le jeu On lâche rien, qui était un jeu sur les manifestations. On était à l'intérieur d'une manifestation, voilà. Un deuxième jeu qui était Rien à cacher, qui était un jeu sur les lois sécuritaires, hein, et un jeu qui s'appelait Carte Aventura sur les parcours des exilés. Et là, c'est un nouveau jeu qui s'appelle Les Conquêtes Sociales, dont on va voir la couverture du jeu, normalement. C'est dans les photos. C'est dans les photos, ouais. Il y en a une, tu as passé tout à l'heure, c'était les petites cartes. Tu vois ? Donc, et pourquoi j'en parle ? C'est parce que ce jeu est fait avec la Fondation Gabriel Péri, voilà, Louise Gaxi et David Choran. Et on est tous les trois, donc et moi-même, au Conseil scientifique. C'est un jeu qui a été fait en collaboration avec la CGT, avec la LDH. Et donc, le principe, c'est ce qu'on appelle, je ne suis pas très bonne en jeu, moi, un timeline. Donc, on a des cartes sur lesquelles, là, vous voyez les dates, mais en fait, elles sont plutôt comme il y a écrit le massacre de fourmis, donc il n'y a pas de date, et les joueurs doivent essayer de les placer. Et ça permet en fait de réviser d'une certaine façon l'histoire des conquêtes sociales. Et l'idée est aussi de montrer que, en fait, ce qu'on appelle parfois les acquis sociaux sont des conquis sociaux, et que derrière chaque loi, il y a une lutte. Et donc, on ne peut poser une carte loi que si on a posé la carte lutte. Enfin, voilà, il y a tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça fait plus d'un an qu'on travaille, Louise, David, moi et Luc et Adrien de Coco Chéri, donc la société de jeu là-dessus. Et il est prêt, il va sortir normalement en août-septembre.
Pour la fête de l'Huma.
On y jouera pour la fête de l'Huma. J'espère qu'on y jouera ici, parce que moi, j'espère que je reviendrai ici à la rentrée, sachant que, mais comme je suis prof, moi, juillet-août... Non, mais en fait, je vais bosser, mais la prochaine émission, ça sera en septembre. Et je voulais, et c'est toujours quand même un tout petit peu lié avec le thème d'aujourd'hui, autre conseil pour les vacances, hein. Ce merveilleux cahier de congés payés de l'ami BD. Et vraiment, je vous le conseille, il est absolument dément. Donc, c'est 1312 jeux pour préparer la rentrée sociale. Et alors, comment je vais faire pour... comme ça. Voilà. Comme ça, non, vous ne me voyez pas du tout. Bon, on m'entend quand même, tu penses? Ouais. Donc, vous voyez, il y a plein de jeux super. Donc, voilà, il y a des trucs. Alors, parmi mes préférés, moi, j'adore les pancartes à trous. Parce que vous savez, j'ai un petit problème avec les pancartes. J'ai une passion absolue des pancartes. Donc, voilà, il faut trouver, par exemple, justice pour, et il faut faire Naël, Quentin, le facho, Sarkozy, Gérard Larcher. Voilà, évidemment, c'est facile. Hein. Enfin, je veux dire, si on est de gauche, on gagne. Et là, il faut... Donc, il y a vraiment plein de trucs. Des fausses... Enfin, faut regarder dans le détail. Mais d'accord. Voilà, amis, camarades... Comment passer une bonne soirée à l'apéro avec les copains pendant les vacances, hein. Voilà, le cahier des congés payés. Tiens, tiens, BD, bande détournée. Voilà, pour les gauchistes de 16 à 116 ans.
C'est édité chez qui, alors?
Eh ben, c'est édité, je pense que c'est bande détournée, ça doit être... voilà.
Ouais, d'accord. Ouais, super, on l'achètera.
Ah ouais, non, mais les pancartes à trous, moi, j'aime... Ouais. Mais il y a plein d'autres trucs, hein. Il y a, par exemple, il y a un truc, quand je l'avais posté, il y avait plein de gens qui avaient trouvé ça super drôle. C'est les essais de la fabrique, hein. Les vrais ou les faux.
Ah oui.
Eh ben, c'est pas si facile que ça.
Non. Bien.
Voilà. Vous vouliez dire un truc en plus?
Bah, ce soir, Maison des Métallos, chez Libertalia, c'est la sortie officielle du livre. Voilà.
Voilà.
Donc voilà. Alors, est-ce qu'on va me voir?
Oui.
Je remets le livre, Les Fronts Populaires, une perspective mondiale, 1934-1938. Cette émission se termine, mais si vous n'en avez pas eu assez, si vous avez des questions à poser ce soir à la Maison des Métallos, dont il est question d'ailleurs dans le documentaire, où maintenant Libertalia, il y avait une librairie d'ailleurs en 36 et maintenant il y a Libertalia. Et il nous reste un peu moins d'un an pour faire en sorte que la même victoire de 36 arrive en 27.
Ça se décrète 27. Pas, mais il faut retrousser les manches.
Bah, ça, de toute façon, c'est ce qu'on fait, non?
Oui.
Voilà.
Merci à toi.
Merci,
ben merci. Merci à vous deux. Merci Nayane. Merci Urial. Merci le chat. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de nous aider, de faire des dons. On a besoin de vous. Et c'est grâce à vous qu'on peut faire ces émissions. Je vous souhaite des merveilleuses vacances, hein, et je vous retrouve à la rentrée. Au revoir.
Les amis, nous sommes sur opposte.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est opposte, opposte.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous à opposte.
J'encourage, faites un don à opposte. Ah non, c'est là la caméra.
Abonnez-vous opposte.
Et faites des dons à opposte. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à opposte. Il faut donner de l'argent pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, abonnez-vous opposte.fr, opposte.fr. Abonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer les récits, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir opposte.
Abonnez-vous.
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à opposte et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous.
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Opposte.fr. Y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient opposte, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à opposte. Faut pas que c'est ça qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat. Faut provoquer du sujet. Pour provoquer du sujet, faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce que on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà. Merci.
Et abonnez-vous
opposte.fr, opposte.fr.
Bravo. Abonnez-vous opposte.fr, opposte.fr.